Vous êtes sur RTL.
Elvie, bonjour Yves.
Merci Dominique Tenza et nos pensées à toute l'équipe des petits matins sur RTL. Bonjour à tous, menu varié hein, en ce lundi matin, et j'attire plus particulièrement votre attention sur notre RTL événement consacré au nouveau business des vidéos personnalisées de stars ou prétendues telles. Comme aux États-Unis qui a lancé le mouvement, la demande explose et pour un prix allant de 10 à plusieurs centaines d'euros, une ancienne figure du spectacle ou de la télévision peut vous souhaiter bon anniversaire. Enquête extrêmement drôle et instructive signée Antoine Cavaillé-Roux. Dans un registre bien différent, le délégué général du mouvement macroniste Stanislas Guérini est l'invité ce matin d'Alba Ventura. Le pass vaccinal, la situation de Jean-Michel Blanquer et celle d'Édouard Philippe seront au menu de cet entretien dès 7h40. À 8h20, notre débat. Emmanuel Macron veut secouer l'université française. Nous en débattrons avec la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, et l'économiste Olivier Babeau. Enfin, à 8h35, faut-il obliger la vaccination chez les sportifs? Notre ministre des Sports veut leur imposer le pass vaccinal. Comment? Pourquoi? Avec quels moyens? Après l'affaire Djokovic, nous serons avec tous les spécialistes de la rédaction. Nous sommes le lundi 17 janvier 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h, le journal avec Alexandre Le Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le début de l'Open d'Australie, finalement débarrassé de la polémique de Novak Djokovic.
Non vacciné, le numéro 1 du tennis mondial a été expulsé cette nuit. La France, de son côté, annonce que les sportifs étrangers seront aussi concernés par le pass vaccinal. Y a-t-il eu des saluts nazis dans Paris lors de la manifestation anti-vax de samedi? Le ministre de l'Intérieur demande au préfet de police de saisir la justice. Quand le fisc vous fait crédit, plus de 5 milliards d'euros distribués à partir d'aujourd'hui pour les Français qui bénéficient de réductions d'impôts. Et puis les États-Unis qui suppriment l'appellation qui protège le gruyère suisse et français. Sacrilège pour les amateurs de fromage.
La politique, Olivier Bost.
Et j'ai regardé Mister Mélenchon et le professeur Jean-Luc ce week-end, à la fois très moderne et très vieille gauche.
Votre analyse dès la fin du journal.
RTL Matin.
Au terme d'une bataille judiciaire, Novak Djokovic a finalement été expulsé d'Australie. Le numéro 1 mondial du tennis, non vacciné, a atterri à Dubaï cette nuit, peu après le coup d'envoi à Melbourne de l'Open d'Australie, une compétition que le joueur serbe rêvait de remporter pour la 10e fois, Christophe Mallet.
Oui, les spectateurs restent dans l'ensemble plutôt satisfaits de la décision prise par le gouvernement australien, rejetant la faute sur le numéro 1 mondial.
Moi, je voulais que le numéro 1 joue, mais bon, ses choix ne lui ont pas permis de jouer. C'est la situation en ce moment, malheureusement.
Le public ce matin est donc plutôt satisfait du départ de Novak Djokovic.
Moi, j'ai dû remplir tout un tas de critères pour que je puisse venir et voir mon petit-fils pour la première fois. J'ai dû remplir tout un tas de paperasses. S'il était resté, ça aurait créé trop de controverses. Donc, je pense que c'est mieux. Il faut respecter les règles.
Après donc différentes actions légales et une saga qui aura entaché le début de cet Open d'Australie, eh bien les fans de tennis peuvent maintenant se concentrer sur la petite balle jaune.
En Australie, pour RTL, le reportage de notre correspondant Christophe Mallet. Novak Djokovic qui pourrait également être privé de Roland-Garros. Après plusieurs jours d'hésitation, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a finalement annoncé hier soir que le pass vaccinal concernera également les sportifs étrangers.
Eh bien, le pass vaccinal qui n'est pas encore appliqué, mais ça y est, il a été définitivement adopté par le Parlement.
Le dernier vote a eu lieu hier soir à l'Assemblée nationale pour ce projet de loi que le gouvernement veut appliquer le plus vite possible. William Galibert, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous ?
Alors le grand principe, on l'avait compris, un test négatif ne suffira donc plus pour aller au restaurant, au cinéma ou pour prendre l'avion et le TGV. Maintenant, il faudra prouver que l'on a bien été vacciné. Les détails, ceux qui ont créé le plus de remous, les vérifications d'identité en cas de doute par les patrons d'établissement, ces vérifications seront bien possibles. La République En Marche n'a pas voulu y renoncer. À partir de quel âge le pass vaccinal sera-t-il exigé? Ça sera finalement 16 ans. Autre disposition contestée, les entreprises qui refusent de jouer le jeu du télétravail pourront subir des amendes jusqu'à 500 euros par salarié. Les débats ont donc été très agités, le texte finalement adopté, mais l'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. Plusieurs recours ont été déposés devant le Conseil constitutionnel qui a 8 jours maximum pour se prononcer. Le gouvernement espérait initialement une application du pass vaccinal dès le 15 janvier, mais rien ne sera possible avant que les sages ne rendent leur décision.
William Galibert du service politique de RTL.
Les opposants passe vaccinal ont à nouveau manifesté donc ce week-end dans plusieurs villes de France avec des incidents et notamment ce qui ressemble à des saluts nazis dans Paris.
Ouais, c'est ce que semble montrer une photo publiée sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à la préfecture de police de Paris de faire un signalement à la justice. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Sur le cliché, on aperçoit plusieurs dizaines de personnes en train de lever le bras droit.
Oui, le ministre a posté sur Twitter une capture d'écran où l'on aperçoit un groupe de manifestants les bras levés dans des postures qui évoquent des saluts nazis. Cette photo, prise en marge du rassemblement du mouvement Les Patriotes, choque, écrit Gérald Darmanin. Mais des internautes ont répondu par des séquences vidéo. La photo proviendrait d'après eux de ces séquences. Et les manifestants effectuent en fait ce qui semble être un clapping et non pas des saluts nazis. La justice devra faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. En revanche, d'autres vidéos circulent où l'on entend les manifestants scander des slogans xénophobes. On est chez nous, la France n'est pas une terre d'islam. Et des journalistes de l'agence France Presse qui couvraient ce rassemblement ont été agressés par un groupe d'une cinquantaine de personnes. L'agence a annoncé son intention de déposer plainte pour violence volontaire, menace de mort et entrave à la liberté d'expression.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Dans un instant, direction Mulhouse, l'une des premières villes de France à avoir été touchée par l'épidémie. Elle est devenue aujourd'hui le fief des antivax. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal d'Alexandre Le Saint-Aignan. C'est le département le moins bien vacciné de la région Grand Est, le Haut-Rhin, fief des antivax.
C'est pourtant là, à Mulhouse, qui était apparu l'un des tout premiers clusters de France lors d'un rassemblement évangélique en février 2020, on s'en souvient. Et pourtant aujourd'hui, seul un peu plus de 71% des habitants ont reçu leurs deux doses. Le rejet du vaccin est tel par endroit que des antivax organisent même des opérations de tractage dans les boîtes aux lettres, Dimitri Ramelot.
Oui, sorti de la pharmacie pour Alain, avec dans son sachet en papier des boîtes de médicaments non remboursés au cas où il serait infecté. Car ce père de famille, qui comme chacun ici ne se revendique pas anthroposophe, ne veut pas entendre parler du vaccin.
C'est à moi de décider ce qu'on fait de mon corps, c'est moi qui décide comment je dois vivre ou pas. De pouvoir se soigner de notre choix. On est encore dans un pays démocratique. Je suis mon conseil de mon médecin, dont je ne nommerai pas. Si je l'attrape, je m'isole. Beaucoup de vitamines.
Et l'homéopathie comme seul remède trouve écho dans des opérations de tractage nocturne, dans les boîtes des particuliers, des flyers anonymes qui conseillent des cocktails de cachets qui font état de fausses statistiques anti-vaccins. Un fléau pour Patrick Vogt, médecin généraliste à Mulhouse.
Est-ce que c'est une dérive sectaire, que ça devient militant? Oui, ils sont dans une forme de déni. Le Covid existe, mais n'est pas dangereux pour eux. Tous les jours, on voit des gens qui terminent à l'hôpital malgré ce discours. Ça ne change en rien la vie des gens. C'est ça qui est dramatique. Sans l'obligation vaccinale, on n'y arrivera pas.
Et si la précarité et l'immigration ont historiquement éloigné de la vaccination, l'anthroposophie pèse très lourd ici sur le taux de vaccination très bas. Certains habitants rencontrés en ville se disent même prêts à aider pour les prochaines opérations de tractage.
Dimitri Ramelot dans le Haut-Rhin pour RTL. La France attire des nouveaux investissements venus de l'étranger. À 3 mois de l'élection présidentielle, l'Élysée a dévoilé hier soir 21 nouveaux projets, 4 milliards d'euros au total, à l'occasion de la 5e édition de Choose France. Le géant du meuble suédois IKEA va notamment mettre sur la table 650 millions d'euros sur 3 ans. Ces investissements devront au total permettre de créer plus de 10 000 emplois dans les prochaines années.
Alors ça n'est pas une erreur, vous risquez de recevoir un virement du fisc aujourd'hui.
5,3 milliards d'euros, effectivement, vont être distribués à près de 9 millions de foyers français. Aucune démarche à effectuer, inutile de réclamer, c'est automatique. Toutes les explications avec Eric Vanier.
Si dans la déclaration de revenus que vous avez remplie au printemps dernier, vous avez utilisé des dispositifs de crédit ou de réduction d'impôts liés notamment aux frais de garde d'enfants, aux services à domicile, aux dépenses d'hébergement en EHPAD, aux investissements locatifs ou encore aux dons aux associations reconnues d'utilité publique, eh bien surveillez effectivement aujourd'hui votre compte en banque. Vous devriez avoir une bonne surprise. Sans attendre la déclaration 2022 et considérant que vous ferez à peu près la même chose cette année, le fisc a prévu de vous verser un acompte de 60%, montant moyen de cette avance 605 euros. L'ajustement se fera à la fin de l'été, soit par un remboursement total ou partiel de cet acompte si pour des raisons qui vous appartiennent vous n'utilisez plus ces avantages fiscaux, soit par un deuxième versement pour compléter le premier si le virement d'aujourd'hui se révèle insuffisant.
Éric Vanier du service économie de RTL. Nouvelle grève en vue dans les écoles. Le syndicat SNES-FSU appelle à la mobilisation jeudi prochain. Toujours contre le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Une grève par endroit, mais aussi des rassemblements. Les actions seront plus locales, prévient le syndicat d'enseignants.
Le gruyère est-il vraiment du gruyère s'il ne vient pas de la région de Gruyère en Suisse? Pour les États-Unis, la réponse est oui.
Oui, ce fromage est protégé par une appellation qui limite sa production à la Suisse et à la France. Mais un juge fédéral américain a estimé la semaine dernière que le terme gruyère est désormais devenu un terme générique. Autrement dit, rien n'empêche les États-Unis, par exemple, de fabriquer le précieux fromage. Et ça ne passe pas du tout, vous l'imaginez, auprès des fromagers helvètes, Jean Le Chemier.
Philippe Bardet ne décolère pas contre la décision de la justice américaine. Faire du gruyère à plus de 7000 km du berceau historique de ce fromage en Suisse est un non-sens aux yeux du patron de l'interprofession du gruyère suisse.
Ce qu'on entend sous le nom gruyère, c'est une pâte pressée cuite qui est faite avec du lait non pasteurisé et du lait cru. C'est quand même lié à un savoir-faire et surtout à une région d'origine d'où provient le lait.
Ce n'est pas l'avis des États-Unis qui considèrent que le gruyère est un terme générique déjà omniprésent dans les rayons des supermarchés. Mais là encore, ce n'est pas l'avis des producteurs suisses.
Le juge américain dit que le consommateur achète du gruyère puis il s'en fout ce que c'est. C'est absolument pas le cas puisque nos ventes de gruyère ont augmenté.
La décision pourrait en tout cas miner les ventes. Le marché américain est de loin le premier marché à l'exportation du gruyère suisse avec 4000 tonnes sur les 32 000 produits de chaque année. Les producteurs ont déjà annoncé qu'ils allaient faire appel devant les tribunaux américains.
En Suisse, les explications de Jean Le Chemier pour RTL.
Ni de gruyère qu'à gruyère, je le précise.
Ça c'est sûr. En football, Marseille tenu en échec face à des Lillois en infériorité numérique. Match nul un partout au stade Vélodrome. L'OM désormais à la troisième place, 2 points derrière Nice. De son côté, Lyon justement a retrouvé le goût de la victoire contre 3-1 à 0. Montpellier s'est incliné 3-1 face à Strasbourg. 0-0 entre Lorient et Angers. Monaco a battu Clermont 4-0. Succès de Metz 1-0 contre Reims. Et puis le carton de la journée, c'était quand même pour Rennes qui a écrasé Bordeaux 6-0.
Les courses, elles ont lieu à Pau.
Et les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, les voici: le 5, le 11, le 4, le 7, le 9, le 2, le 6 et la dernière minute, c'est le numéro 4, gage de réussite.
Et ce journal nous était présenté par Alexandre de Saint-Aignan. La politique avec vous à 7h12. Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez suivi le meeting hier de Jean-Luc Mélenchon, meeting en 3D, olfactif, modernité. Qu'est-ce qu'il fallait en retenir?
Eh ben, il faut reconnaître d'abord à Jean-Luc Mélenchon un talent et puis des efforts. Oui. Son talent d'orateur indéniable et puis ses efforts pour apparaître moderne. Hier, nous avons vu Mister Mélenchon et le professeur Jean-Luc, tout à la fois très moderne et très vieille gauche.
Alors, expliquez-nous un peu cette modernité et ces vieilles idées.
Alors, après ces hologrammes en 2017, pour faire des meetings dans plusieurs villes de France en même temps, Jean-Luc Mélenchon a lancé le meeting immersif en odorama. Il était au centre de 3000, 4000 militants, avec des images géantes projetées tout autour. Vu à la télé, l'effet graphique était spectaculaire. Le professeur Jean-Luc a emmené ses élèves dans l'espace, tellement important pour le progrès, au milieu des mers pour leur énergie infinie et dans les nouveaux mondes numériques pour notre indépendance.
Et tout cela avait des airs de cours magistral.
Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est venez avec vers moi, je vais vous apprendre des choses. Ce que peu de candidats revendiquent. Oui. Il adore vulgariser avec un petit côté éducation des masses. La droite a gagné la bataille culturelle, il ne s'y résout pas et mène toujours la sienne. Et c'est vrai qu'en la matière, Mister Mélenchon est fidèle à lui-même. Quand il parle de l'espace, ça l'amène à s'en prendre au capitalisme débridé et à l'impérialisme américain. Quand il parle de nos mondes numériques, c'est pour dire que l'intelligence artificielle nous permettra de travailler moins, de passer aux 32 heures, de partir à la retraite à 60 ans et d'avoir un salaire minimum à 1 400 € net. La technologie est formidable. L'énergie des mers permettra, elle, de sortir du nucléaire. 50 éoliennes offshore, ça remplace un réacteur de centrale, selon son calcul totalement faux. Jean-Luc Mélenchon défend tout à la fois la science et fait siffler réformer le pass sanitaire et les vaccins.
Ce que vous nous décrivez, c'est un programme bien à gauche, tout simplement.
Alors, il ne manque plus que les électeurs. D'une phrase, Jean-Luc Mélenchon a résumé toute la difficulté de sa troisième et dernière campagne présidentielle. « Si vous me redonnez la force que vous m'avez donnée la dernière fois », a-t-il imploré. Tout est suspendu à ainsi et réduit sa stratégie à une incantation. Si seulement le miracle pouvait se reproduire. Comme si rien n'avait changé depuis 2017. En 5 ans, le candidat a abîmé son image par ses moments de fureur. En 5 ans, ses concurrents de gauche se sont effondrés. Il ne peut même plus les siphonner comme il avait siphonné les voix de Benoît Hamon. Une dernière phrase dans ce meeting nous éclaire sur l'état d'esprit du vétéran. On ne va pas se laisser entraîner dans une campagne de déprime, comme si Jean-Luc Mélenchon luttait aussi un peu contre lui-même.
Merci beaucoup Olivier Bost, on vous retrouve sur l'application mobile RTL. Et à 7h40, c'est donc Stanislas Guérini, le délégué général d'En Marche, qui sera l'invité d'Alba Ventura.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h15, l'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur l'adoption d'une résolution visant à condamner le régime du président Loukachenko en Biélorussie. Un régime accusé d'orchestrer l'afflux de migrants à la frontière avec la Pologne. En octobre dernier, des milliers de personnes s'étaient retrouvées coincées entre la Biélorussie et la Pologne. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour à tous.
3 mois plus tard, quelle est la situation à la frontière ?
Alors, beaucoup de migrants ont pu rentrer chez eux par des vols affrétés par leur pays d'origine, mais de nombreuses personnes sont toujours sur place. Elles viennent d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan pour la plupart. Impossible de savoir combien elles sont, puisqu'aucune ONG n'a accès aux zones tampons entre les deux frontières. Ces réfugiés survivent donc comme ils peuvent dans cette vaste forêt, sans réelle assistance. Manon Fillonneau, d'Amnesty International.
Il faut s'imaginer un peu le contexte. On est dans une forêt, les températures sont en dessous de zéro. On est sur des groupes de personnes qui sont plutôt des familles qui pensaient, parce que c'est ce qu'on leur avait fait croire, que c'était une voie migratoire hyper sûre et hyper simple. Et donc, ils arrivent dans cette forêt gelée, ils sont posés là sans nourriture et sans eau, et donc essayent de traverser malgré tout.
Sauf que le passage est très compliqué, voire impossible.
Bon, ces personnes se retrouvent alors bloquées entre les deux pays, c'est ça ?
Oui, car la Pologne refuse de les accueillir et la Biélorussie refuse de les reprendre. Certains migrants sont donc refoulés plusieurs fois de Pologne, puis de Biélorussie, puis encore de Pologne, et ainsi de suite. Souvent de manière très violente, sans la possibilité de faire une demande d'asile, ce qui est illégal au regard des conventions européennes et internationales. Cal McNally travaille pour Médecins sans frontières.
J'ai parlé avec une famille syrienne qui est restée cachée dans la forêt pendant 21 jours. Puis les policiers polonais les ont trouvés, ont pris leurs affaires, les ont détruites, puis les ont repoussées violemment vers la Biélorussie. Les gens doivent se rendre compte que ce n'est pas une attaque aux frontières de l'Europe, ce n'est pas la guerre. On parle de familles, d'êtres humains qui se cachent dans la forêt parce qu'ils ont une peur panique des gardes frontières européens.
Les associations dénoncent les pratiques violentes des gardes frontières des deux pays et réclament la mise en place d'un couloir humanitaire.
Merci beaucoup Émilie Beaujard de notre service étranger à RTL. À suivre, RTL événement et le business tout à fait étonnant autour de ces vidéos personnalisées de stars ou d'anciennes stars. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros, vous pouvez recevoir un message vidéo de vos idoles. Ça fait son petit effet et on vous explique cette nouvelle tendance dans un tout petit instant sur RTL. Il est 7h18, bonne journée à tous.
RTL événement.
Il est 7h20, votre anniversaire souhaité par Jean-Pierre Castaldi ou un message de bonne année de la part de Samina Seri, c'est donc désormais possible. Contre quelques euros, plusieurs plateformes sur Internet vous proposent d'offrir des dédicaces de célébrités ou ex-célébrités, des messages vidéo entièrement personnalisés. Bonjour Antoine Cavallero.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Expliquez-nous ce concept qui séduit visiblement de plus en plus d'internautes.
Un concept venu, on a envie de dire forcément, des États-Unis. Et c'est très simple, vous vous rendez sur l'un de ces sites, une longue galerie de célébrités s'affiche avec les prix comme au super marché, vous choisissez votre star, plus de 300 chez le français Vidoléo, 40 000 chez le géant américain Cameo. Il y en a pour tous les goûts, des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des personnalités de télé-réalité. Vous précisez le destinataire, vous réglez la somme demandée et dans un délai de 7 jours maximum, vous recevez plus ou moins ça.
Bonjour à tous, c'est Evangélie.
Je suis Jean-Luc Castaldi. Je suis très heureux de fêter un joyeux Noël de la part de Pierre.
Ici Pascal Légitimus en direct live.
Bonjour, c'est Liane Folie.
Franck Leboeuf. Hein, je sais pas si tu m'as reconnu, oui c'est vrai, je m'enflais, mais bon, c'est comme ça.
Bonjour tout le monde, c'est Christophe Lemaitre.
En tout cas, je vous souhaite, mon cher Vaca, un happy, happy birthday et dansez le chalençon.
Voilà, même Pierre-Jean Chalençon est présent sur ces sites, l'homme qui avait fait polémique avec des dîners clandestins en plein confinement. On ne va pas dire donc des personnalités dans le creux de la vague, mais pas non plus toujours au sommet. Alors aux États-Unis, ça fait bientôt 5 ans que ça existe avec le mastodonte Cameo. Et depuis un an et demi, des entreprises se sont lancées sur le marché français avec des célébrités françaises. Il y a le leader hexagonal Vidoléo, mais aussi Big Up, Dédis, sans oublier les Suédois de Memo.
Et Antoine, le concept a plutôt l'air de séduire.
Oui, on est allé voir un client, Florian, 28 ans, professeur de PS en région parisienne, séduit par l'idée d'offrir un cadeau qui sorte de l'ordinaire. Avec son meilleur ami, il s'était bien marré devant une vidéo de Johnny Cadillac, l'un des nombreux sosies de Johnny Hallyday. Quand Florian l'a vu sur la plateforme, il n'a pas hésité, il a sorti sa carte bleue.
Et donc la célébrité en question, elle a réalisé exactement ce que je lui ai demandé. C'était une vidéo finalement assez longue quand même, d'une minute, donc il prend le temps, etc. Donc franchement, assez satisfait et j'ai trouvé le retour très cool.
Voilà, comme de nombreux utilisateurs, si on en croit les avis publiés sur les sites, Florian satisfait de sa vidéo complètement personnalisée.
Et tout ça pour la somme modique de
30€, c'est le prix moyen. Les tarifs sont à peu près les mêmes sur les différentes plateformes. 10€ minimum, 120€ pour les célébrités les plus chères sur Vidoléo. Et encore, ça ce sont les tarifs pour les fans. Les plateformes proposent aussi des formules pour les entreprises avec des sommes beaucoup plus élevées. L'acteur Samy Nasseri réclame 500€, 800€ pour la animateur de télévision Pascal Le Grand Frère. Le cofondateur de Vidoléo, Nicolas Poulet-Alina, nous explique comment sont fixés les tarifs.
Le prix, il est fixé par les célébrités directement via leur application. Donc chaque célébrité, en fonction du temps qu'elle veut investir dans le concept Vidoléo, va fixer un prix et ce prix va bien entendu aussi déterminer le nombre de demandes que la célébrité recevra.
Bon, mais vous allez me dire, qu'est-ce qui attire les célébrités sur ces sites? Eh bien, on a posé la question à l'une d'entre elles, le chanteur Colonel Rayel.
Laisse-moi être celui qui parle.
J'ai remis la musique pour le resituer. Si jamais, quand il a été contacté, Colonel Rayel a tout de suite accepté.
Ça tombait au moment du premier confinement, un moment où justement on a été coupé du contact avec le public. Donc, je me suis dit que c'était une belle opportunité de garder le contact avec mes fans. Je reçois énormément de demandes quotidiennement. Je peux recevoir une vingtaine de demandes. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. Donc, le fait de passer par Vidéléo, ça me permet de ne rien avoir à faire, quoi, de laisser la plateforme gérer tout de A à Z. Et pour moi, c'est beaucoup mieux.
Alors, Colonel Rayel, par exemple, a consacré une heure par jour aux demandes des fans. Selon les fondateurs de Vidoléo, les personnalités peuvent gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. À noter également, les sites organisent souvent des opérations, les fonds récoltés reversés à des associations. Certaines célébrités, d'ailleurs, le font automatiquement.
Et les sites, dans tout ça, comment se rémunèrent-ils?
Ils, le plus simplement du monde, en prélevant 25% du prix de la prestation. Le français Vidoléo connaît une belle croissance. Pour vous donner une idée, en décembre 2020, son chiffre d'affaires s'était élevé à 10 000 euros. En décembre 2021, 100 000 euros. La start-up est en train de lever des fonds. Le but, financer les prochaines innovations, échanger des messages, voire carrément organiser un appel vidéo minuté en tête à tête avec la célébrité de son choix. Alors Yves, on n'en est pas encore là pour l'instant. On n'a pas résisté, c'est cadeau.
Salut Yves, tu t'es levé tôt ce matin. Je sais que tu es un très grand fan. Je sais aussi que tu préfères le zouk à Georges Brassens. Et comme moi, tu adores le rhum, le soleil et les Antilles. Et on va tous chanter « Vas-y Yves, c'est bon. Vas-y mon Yves, c'est bon, bon, bon. Vas-y mon Yves, c'est bon. Vas-y mon Yves, c'est bon, bon, bon. »
Vous m'avez gâté.
Francky Vincent, mon exclusivité. Rien que pour vous, Yves.
Merci beaucoup Antoine Caballero. Et donc, on salue bien entendu toute cette joyeuse bande de comédiens et d'artistes qui participent à ces vidéos. Merci beaucoup. En tout cas, tout cela était illustratif et passionnant. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
7h25, on vous retrouve pour votre pépite musicale quotidienne. Qu'avez-vous choisi pour nous?
Le 17 janvier 1967, il y a 55 ans donc, le trompettiste anglais David Mason poussait les portes du studio Abbey Road à Londres pour enregistrer ça.
La
fameuse partie de trompette de la chanson Penny Lane des Beatles. Penny Lane, c'était le nom du quartier de Liverpool dans lequel John Lennon avait vécu enfant et où Paul McCartney traînait souvent. C'est McCartney, un soir, chez lui, qui a entendu ce son aigu. La trompette du deuxième concerto brandebourgeois de Bach. McCartney suivait la retransmission du concerto à la télé sur la BBC et il est arrivé le lendemain en studio en disant à ses copains « Je veux la même trompette dans Penny Lane ». Le musicien classique David Mason, qui jouait dans l'orchestre à la télé, a donc été convoqué en studio. Il est arrivé avec 9 trompettes et c'est la piccolo en si bémol qui a été choisie. À l'époque, le producteur lui a filé 27 pounds.
Non.
En le remerciant, si. 20 ans après, la trompette en question était vendue 11 000 dollars aux enchères. Est sorti en 45 tours en début d'année 67. Parmi les versions exotiques et réussies de ce morceau, voici une que j'aime beaucoup. Une couleur vocale inédite, Penny Lane en brésilien, par le trio Esperança.
Na bancada, uma florista vende muitas flores. Me aproxime, peço uma, duas, três. Parece até que estamos só brincando e nos dando a vez. Que está parado. O tempo é um vagabundo que não quer passar. As crianças compram flores e as trazem pra mim. Sempre assim, Penny Lane, eu ouço a vida em você.
Les sœurs du trio Esperanza, on trouve cette version dans leur album De Bach à Jobim, qui était paru en 2010.
Sob os céus, eu vejo acontecer.
C'est ma fête ce matin, Jackie Vincent avec Antoine Caballero.
Penny Lane,
j'ai dit Jackie.
Oui, c'est Francky.
Oh mon Dieu, c'est honteux. Alors là, j'ai vraiment
Francky Vincent. Ouais.
Francky Vincent.
Et les Beatles. Et pas besoin de dire leur
prénom. Penny Lane, qui est une de mes chansons préférées.
Merci infiniment. On vous retrouve demain pour d'autres pépites musicales et à tout moment sur l'appli RTL. Dans un instant, un point complet sur la météo. En ce lundi, vous êtes bien Louis Bodin.
Ah bah c'est bien
c'est
ça.
Mieux. À tout de suite. Je ne vous appellerai pas Jean-Pierre. À tout de suite.
RTL matin.
Notre rendez-vous avec Laurent Ruquier, ses grosses têtes de 15h30 à 18h. Ce matin, nos grosses têtes jouent avec au jeu des ressemblances.
J'arrive souvent, on vous confond parfois, vous avez un sosie que vous avez déjà rencontré.
Alors, on m'a dit Virginie Ledoyen, mais je trouve pas vraiment.
Ah, si.
Il y a quelque chose.
Ouais. Vous, Jean, c'est Danny DeVito, évidemment.
Des fois, les Américains, sur les Champs-Élysées, me demandent des autographes, ils me prennent pour Danny DeVito, alors que je suis beaucoup plus grand que lui. Ouais.
C'est vrai qu'il est beaucoup plus grand que
vous. Gade, ça vous arrive ?
Moi, on me confond souvent, et c'est pas une blague, avec moi-même. C'est-à-dire qu'on me dit, on dirait Gade, on me le dit tout le temps. Et
qu'est-ce qu'il
faut
faire ?
Ce qui me fait rire, c'est les gens qui viennent vous voir, qui vous disent « Ah, vous êtes Laurent Ruquier, hein, je vous avais pas reconnu. »
Ça, c'est formidable.
Ça, c'est génial.
Ah non, j'ai eu un truc sympa un jour. Vous savez à quoi je vous ai reconnu ? Je dis non, et il m'a dit « À votre visage.
» Au rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL avec aujourd'hui Michel Bernier, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Paul Elkarat, Yoann Rioux et Gérard Jugnot. Notre météo, Louis Baudin, on vous écoute.
Ah bah c'est simple, ça va être gris quasiment toute la journée sur la France, alors presque partout. Il y aura peut-être quelques éclaircies près de la Manche cet après-midi, puis surtout dans le sud, hein, c'est vrai qu'entre les Pyrénées, les Alpes, la Méditerranée, là le soleil devrait s'imposer avec un peu de mistral et de tramontane autour de la Méditerranée. Quelques brumes brouillards pourraient persister ici ou là, puis les températures très homogènes après ces gelées matinales dans le sud. 4 à 8 degrés cet après-midi quasiment partout, 11 à 14 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis. RTL, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 17 janvier 2022. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Ça n'a pas été simple, mais ça y est.
Pour 215 contre 58, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.
La loi qui instaure le pass vaccinal a été votée hier soir par un ultime vote de l'Assemblée. Son entrée en vigueur va être un peu retardée car les socialistes et les insoumis ont prévu de saisir le Conseil constitutionnel. Ce pass sera obligatoire à partir de 16 ans pour accéder à de nombreux lieux publics. Une contrainte de plus donc pour les non-vaccinés qui ont défilé encore samedi dans plusieurs villes. À Paris, Gérald Darmanin demande à la préfecture de faire un signalement à la justice. Une photo du défilé montre un groupe de militants d'extrême droite bras tendus vers le ciel, exactement comme le salut salut nazi. Notez que les forces de l'ordre qui vont contrôler le pass vaccinal sont désormais prises pour cible par les anti-vaccins. Plusieurs commissariats d'Occitanie ont reçu des menaces de mort. Pendant ce temps, la cinquième vague semble marquer le pas. On est désormais en dessous de 300 000 cas quotidiens en moyenne sur 7 jours. Les hospitalisations restent en hausse, mais la décrue semble amorcée dans les services de réanimation, ce qui autorise un peu d'optimisme. Écoutez Benjamin Davido, il est infectiologue à Garches.
Ce que le modèle nous prévoit, c'est un pic d'hospitalisation en réanimation d'ici début février. Ça veut dire qu'on est face à une vague extrêmement rapide, qui va être très brutale, mais probablement redescendre aussi vite. Et les données également nous apportent une plus forte pression sur les services d'hospitalisation conventionnels qu'en réanimation, ce qui nous laisse espérer une situation plus facile à gérer. Du fait que les Français soient largement vaccinés, eh bien, on a une réduction des formes graves en réanimation, et ça semble être une bonne nouvelle et se confirmer sur les premières données françaises.
Un propos recueilli pour RTL par Léonard Cassette.
On en vient maintenant à ce terrible accident sur une piste de ski à Flaine, en Haute-Savoie.
Une petite fille de 5 ans a été percutée par un skieur qui arrivait à grande vitesse. Elle n'a pas survécu et le skieur est dévasté, Bertrand Frachon.
L'accident s'est produit sur une piste bleue peu difficile dans des conditions météo qui offraient pourtant une bonne visibilité. La victime, une fillette anglaise de 5 ans, faisait partie d'un groupe encadré par une monitrice de l'école de ski. Alors qu'elle effectuait un virage, elle a été violemment percutée par un skieur qui descendait, semble-t-il, à grande vitesse, selon le procureur de Bonneville. Ce skieur, âgé de 40 ans, par ailleurs pompier volontaire, a bien tenté de ranimer l'enfant, mais elle est décédée pendant son transport à l'hôpital. Le responsable de l'accident, très choqué, a été placé en garde à vue et les gendarmes ont ouvert une enquête pour homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité et de prudence vu la vitesse excessive du skieur. Une autopsie doit être réalisée sur la petite fille afin de connaître les causes exactes de son décès.
Bertrand Frachon. Éric Zemmour sera fixé sur son sort ce matin. La justice va rendre son jugement après son procès en novembre pour provocation à la haine. Il avait affirmé que les migrants mineurs étaient tous voleurs, assassins et violeurs. A priori, Cindy Hubert, il ne sera pas présent pour entendre la sentence.
Oui, sans surprise, le prévenu devrait bouder ce jugement, tout comme il a boudé son procès. Éric Zemmour sait pourtant que le parquet a requis contre lui une amende de 10 000 euros avec un aller simple en prison possible s'il ne la paye pas. Pour la procureure, on n'est pas dans un accident de langage. Les propos de Zemmour sont tout simplement un conditionnement à la haine. De son côté, l'avocat du prévenu aime à rappeler qu'Éric Zemmour a déjà été poursuivi 12 fois en justice et 10 fois relaxé. Ce qui fait tout de même un bilan judiciaire peu glorieux. 2 condamnations pour provocation à la haine. Et la semaine s'annonce décidément chargée pour le candidat à la présidentielle puisqu'il est de nouveau attendu au tribunal jeudi pour contestation de crimes contre l'humanité, après avoir déclaré que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français.
Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Bonne nouvelle, le fisc va peut-être vous verser de l'argent aujourd'hui. Une avance de 60% sur les crédits d'impôt auxquels vous avez droit si vous employez du personnel à domicile ou si vous faites des dons aux associations. Plus de 8,5 millions de ménages sont concernés. Hier sur RTL, Yannick Jadot a proposé un revenu citoyen dès 18 ans au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire environ 880 euros. Par ailleurs, il réclame la gratuité de l'université au moment où Emmanuel Macron, lui, envisage d'augmenter les frais d'inscription.
Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir, il sait qu'avec l'augmentation du nombre d'étudiants, il va baisser dans son quinquennat l'investissement par étudiant. Vous vous rendez compte ? Eh bien, c'est choquant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai sacrifié l'université et en plus, je vais créer encore plus d'inégalités sociales et scolaires à l'entrée de l'université. C'est choquant, mais ça révèle ce qu'a été Emmanuel Macron, au fond. C'est le président le plus jeune de la Ve République. Et c'est le président le plus anti-jeune de la Ve République.
Yannick Jadot hier au grand jury RTL, le Figaro LCI.
Alors faut-il augmenter les frais d'inscription à l'université ? Ce sera l'objet de notre débat à 8h20 entre la présidente de l'UNEF Mélanie Luce et le président de l'Institut Sapiens Olivier Babot.
C'est aujourd'hui la 5e édition de Choose France, un événement qui réunit les multinationales prêtes à investir chez nous. Pfizer par exemple prévoit de dépenser plus de 500 millions d'euros sur 5 ans, notamment pour produire sa pilule anti-Covid dans les Pyrénées-Atlantiques. En tout, il y a 21 projets qui créeront plus de 10 000 emplois stables. À l'étranger, une tempête hivernale majeur frappe en ce moment l'est des États-Unis. On attend jusqu'à 30 cm de neige du Tennessee jusqu'à l'État de New York. Les vents pourraient atteindre la force d'un ouragan. Hier soir déjà, 250 000 personnes étaient privées d'électricité. Et puis on apprend que la Chine enregistre un taux de natalité historiquement bas, le plus bas, depuis les premières statistiques en 78. Depuis 5 ans, les couples sont autorisés à avoir 2 et même 3 enfants, mais la courbe ne s'inverse pas, la population vieillit.
On ne sait pas où il va, mais il y va. Novak Djokovic a atterri cette nuit à Dubaï, après son expulsion d'Australie pour défaut de vaccination.
L'Open a débuté sans lui, alors qu'il espérait décrocher un 10e titre, son 21e en Grand Chelem, ce serait un record. La suite de sa saison s'annonce compliquée. Les deux prochains tournois ont lieu aux États-Unis, qui exigent eux aussi la vaccination. Le foot, Marseille a dû se contenter d'un nul, un partout hier face à Lille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. L'OM reste accroché à la 3e place du podium devant Rennes qui a infligé une véritable correction à Bordeaux, 6-0. Un score qui désespère Enoch Quanteg, le défenseur des Girondins.
La prestation qu'on vient de faire, c'est pas une prestation. Alors franchement, quand on voit ce genre de match, vous doutez bien que l'état d'esprit, il est au plus bas. Avec ce genre de prestation-là, c'est clair qu'on fonce tout droit en Ligue 2.
Enoch Quanteg chez nos confrères de Prime Vidéo. Notez aussi que l'OL a enfin gagné 1-0 à 3 après une longue série de 5 matchs sans victoire. Et puis à l'Euro de handball, les Bleus affrontent ce soir la Serbie. On est toujours dans le tour préliminaire. Nos experts ont gagné leurs 2 premiers matchs pour que ça dure.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h30 pour France 2022. Avec cette question ce matin après l'expulsion de Novak Djokovic, faut-il obliger les sportifs à se faire vacciner, notamment pour participer à Roland-Garros, mais de toute façon, toute compétition confondue. Dans un instant, François Langlais revient sur une proposition de Jean-Luc Mélenchon, celle de bloquer les prix. Est-ce possible et qui paye à la fin? Réponse dans moins de 30 secondes.
A tout de suite.
A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, a préconisé hier le blocage des prix des produits de première nécessité pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Est-ce possible, François?
C'est tout à fait possible juridiquement. Le gouvernement peut toujours se prévaloir de circonstances exceptionnelles pour fixer le prix de tel ou tel bien. Il avait fait, souvenez-vous, au printemps 2020, pour le gel hydroalcoolique, lorsque certains avaient profité de la pénurie pour augmenter leur prix de façon éhontée. Oui. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, plus que justifiés pour frapper la spéculation, le blocage des prix a un coût.
Ah ben c'est intéressant, que voulez-vous dire?
Quand le prix est bloqué, il y a toujours quelqu'un qui paye, même si on ne le voit pas. Regardez l'électricité, le dispositif élaboré par le gouvernement pour limiter l'augmentation du tarif EDF à 4%. C'est un blocage des prix. Mmh. Et il va coûter une quinzaine de milliards. 8 milliards en taxes en moins et à peu près autant de recettes en moins pour EDF, société publique, donc appartenant à l'État. C'est donc l'État qui va payer, le contribuable va subventionner le consommateur. Dans la plupart des cas, c'est la même personne. Oui. En bloquant la facture d'électricité, on fait monter la feuille d'impôt. Et l'addition arrive toujours à la même adresse.
Attendez, si on bloquait les prix de la baguette, le contribuable ne paierait pas davantage.
C'est vrai, mais il y aurait un coût quand même. Imaginons que le prix des matières premières grimpe, c'est d'ailleurs le cas en ce moment, et qu'on abaisse autoritairement le prix du produit transformé, le pain. Bah, ça serait les boulangers qui paieraient la différence. Immanquablement, ils la refactureraient au consommateur sous une autre forme, la pénurie, en ne fabriquant plus de pain. C'est exactement ce qui était arrivé pendant la Révolution, où on avait fixé le prix du pain à un niveau très bas, plus faible au kilo que celui de la farine. Aberrant. Oui. Du coup, on ne trouvait plus de pain, sauf au marché noir, à des prix très élevés. C'est comme pour les logements.
On a connu ce cas de figure pour les logements.
Mais oui, avec la loi de 1948, qui avait bloqué les loyers après la guerre. Bon, c'était la France était à reconstruire, les habitations étaient rares. Et dans les années 80, subsistaient encore à Paris de nombreux logements dits loi de 48. Mm-hmm. Pour quelques centaines de francs, on avait des appartements gigantesques. Loyers très très faibles. La seule façon d'en obtenir un, tellement la demande était forte, c'était de payer un trou de table en liquide au bailleur pour compenser l'avantage. Le marché s'était vengé.
Vous faites comme si on ne pouvait pas contrarier le marché.
C'est un peu ça. Le prix, vous savez, c'est seulement une mesure, celle du rapport de force entre producteur et acheteur. Si on modifie cette mesure, on ne change pas pour autant le rapport de force. Et du coup, le producteur se venge, en effet. Soit en demandant un complément de prix au noir, soit en arrêtant de produire. C'était le système des pays communistes, l'URSS et ses satellites, où les pénuries étaient fréquentes pour tous les objets de la vie courante. La proposition de la France Insoumise nous reconduit à cette époque glorieuse du rideau de fer, mais du mauvais côté du rideau de fer.
Merci beaucoup François Langlais. Langlais Co est à retrouver bien entendu aussi sur le site rtl.fr. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
le délégué général de La République En Marche, autrement dit le patron d'En Marche, Stanislas Guérini. Il siégeait hier dimanche à l'Assemblée pour un énième feuilleton du pass vaccinal. Adopté, mais pas encore mis en œuvre.
A tout de suite avec Stanislas Guérini sur RTL.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le délégué général du parti En Marche, Stanislas Guérini.
Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
La pression diminue, alors légèrement, mais elle diminue dans les hôpitaux. Il y a une décrue là aussi côté contamination. Le variant Delta recule un peu, Omicron n'est pas si dangereux. Et le pass vaccinal n'est toujours pas prêt. Il faut dire qu'il y a eu de multiples rebondissements et psychodrames à l'Assemblée. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu à contre-courant ?
Non, je crois pas. J'entends ce débat sur le fait de dire peut-être que le pass vaccinal viendrait trop tard. En réalité, on a une mémoire un peu de poisson rouge quand même quand on regarde la pandémie depuis le début. On a d'abord besoin du pass vaccinal et il a eu des impacts sur le vaccin. La semaine dernière, 200 000 personnes se sont primo-vaccinées, ont fait leur première dose. Ça, c'est exactement l'impact du pass vaccinal. Et puis, on voit bien qu'on a besoin, quand il y a des variants dans cette épidémie, d'avoir des outils qui soient prêts pour la crise, prêts pour affronter aussi des transformations. Cette crise, elle rebondit bien souvent. Et donc, on a besoin du pass vaccinal maintenant, le plus rapidement possible. Nous l'avons adopté, il fallait le faire.
Mais alors, pas tout à fait mise en œuvre, je disais, parce qu'il y a quand même des élus, notamment de la France Insoumise et Socialiste, qui ont saisi le Conseil constitutionnel.
Pas que, d'ailleurs.
Et pas que, des UDI aussi, des centristes.
Des LR. Ils nous disent qu'ils sont pour le pass vaccinal. Mais ils essayent à tout prix d'en faire retarder l'adoption. Bien écoutez, ça n'est pas très responsable. Nous nous respecterons évidemment toutes les règles. Le Conseil constitutionnel dira les choses. Mais je regrette qu'on retarde encore l'adoption de ce pass vaccinal parce que, je le répète, il est utile pour gérer la crise, pour faire face à la crise. Il y a une réponse, c'est le vaccin. Beaucoup de pays au monde adoptent ce type d'outil-là. La France aussi, elle a été d'ailleurs...
Mais pourquoi pas faire l'obligation vaccinale ? Parce que c'est une sorte d'obligation déguisée, ce pass vaccinal. Pourquoi pas aller directement à l'obligation vaccinale ?
Parce qu'il me semble que c'est la mesure la plus applicable possible. Moi, j'entends ces débats sur l'obligation vaccinale, je ne vois pas exactement comment on l'appliquerait. Ça voudrait dire que quelqu'un qui sort dans la rue qui n'est pas vacciné, on le contrôlerait, on lui mettrait une amende ?
On n'en aurait pas les moyens,
déjà. Vous voyez, dans le
déjà.
Climat de confiance dans lequel notre société est, je crois que ça serait très difficile de mettre en œuvre cette obligation vaccinale. On fait avec le pass vaccinal, me semble-t-il, le choix d'une mesure qui est rationnelle, c'est-à-dire de faire appel à la responsabilité des gens, de faire peser les contraintes sur ceux qui font le choix de ne pas se vacciner. Et à mon avis, on pousse le curseur comme ça au maximum de ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Mais alors, vous avez certainement vu dans le journal du dimanche, hier, ce sondage IFOP. Les Français sont 58% à soutenir ce pass vaccinal. Ils étaient 63% il y a 10 jours. Alors, en quelques jours, vous leur avez offert la bataille sur le pass vaccinal à l'Assemblée, où vous aussi, vous avez pêché, puisque les députés de la majorité ont été absents. Vous avez eu un président qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés et un protocole sanitaire à l'école incompréhensible. Est-ce que vous comprenez cette défection des Français ?
Moi, je comprends qu'il y ait de la fatigue par rapport à cette crise. Et d'une certaine façon, parfois, quand je vois ce type de sondage, je me dis mais les Français ont au contraire beaucoup de résilience parce qu'on aurait tous envie de dire que tout ça nous agace, qu'on n'a pas envie d'avoir ce pass vaccinal, etc. Ce que je vois, c'est que les Français, massivement, font le choix de la vaccination. Je le rappelais à l'instant, encore la semaine dernière, nous avons vacciné massivement des gens qui sont venus faire leur première dose de vaccin,
oui.
Beaucoup de gens qui font leur dose de rappel.
C'est ce que vous
c'est
avez
ça
dit.
Qui compte. C'est ça qui compte, Alba Ventura.
Vous avez fait partie de ceux qui disaient qu'il y avait un problème avec le protocole sanitaire à l'école. Vous avez alerté, vous aussi, ou pas ?
On voyait tous qu'il y avait des difficultés, surtout chez les parents d'élèves. Qui
Mais
avaient
vous êtes
parents envie.
D'élèves, vous ?
Oui, tout à fait. Et je voyais, moi aussi, j'ai eu mes enfants cas contact. J'ai fait les 3 tests, j'ai fait les attestations sur l'honneur. Tout ça était compliqué.
Vous avez compris que c'était du n'importe
entendu,
quoi ?
Entendu, oui, il fallait... Oh non, je n'utiliserai pas cette expression-là. Pardon, mais la période, elle est difficile. Il y a des règles à fixer. Les autorités de santé, elles fixent des règles. Elles ont été suivies par le gouvernement. Il fallait entendre que les choses étaient compliquées, les assouplir. Alors, vous voyez, quand on assouplit, on nous dit « Ah oui, mais vous changez une nouvelle fois ». Ben non, je crois qu'il fallait du pragmatisme. Il y avait derrière la contestation des gens qui voulaient fermer les écoles. Ça, c'était non. Ça n'a pas été notre ligne depuis le début. Et je m'en félicite. Et il faut au contraire qu'on soit fiers de ça en France. Et puis il y avait des gens
qui légitimement disaient... Il n'y a pas un problème avec Jean-Michel Blanquer.
C'était compliqué. Et donc nous avons adapté les choses. Mais non, bien entendu qu'il n'y a pas un problème avec Jean-Michel Blanquer. Là aussi, vous voyez, dans les moments difficiles,
cette
dans les moments de crise, on cherche toujours à mettre la cible dans le dos de tel ou tel. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre qui a gardé les écoles ouvertes dans notre pays. C'est le ministre qui, toujours, a mis la priorité des enfants, de l'éducation des enfants en avant. Et bien sûr qu'il mérite mais tout le soutien de la majorité et au contraire de la reconnaissance pour son fort courage et la clarté de sa ligne dans cette crise sanitaire.
Stanislas Guérini, que pensez-vous de l'attitude du tennisman Novak Djokovic ?
Je trouve pas ça très responsable. Voilà, j'ai pas apprécié de voir pendant une semaine comme ça, même peut-être encore un peu plus, une sorte de bras de fer pour s'extraire des règles. Moi, je crois qu'on peut pas avoir deux poids, deux mesures face à la crise sanitaire. L'Australie est un pays souverain qui a fixé ses règles, qui a fait respecter ses règles, c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait compréhensible. Qu'on s'appelle Djoko, Nadal ou Tartampion, on respecte les règles.
Et donc pas de Roland-Garros si pas vacciné.
Moi, je ne souhaite pas qu'on puisse avoir des dérogations pour les futurs grands événements sportifs qui auront lieu en France. Là aussi, on vient d'adopter le pass vaccinal. Qui comprendrait que l'on demande à nos concitoyens de faire des efforts, de respecter un certain nombre de règles et puis qu'on autorise certains à s'en extraire. Bien là aussi, si l'on veut être entendu, je crois qu'il faut de l'exemplarité.
Quel serait le bon moment pour la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron ?
Celui qu'il choisira.
Non, mais après le pic de l'épidémie, est-ce qu'il faut laisser passer pic de l'épidémie ?
D'abord, je pense qu'effectivement, la meilleure manière de briguer un nouveau mandat, c'est d'être à la hauteur des responsabilités qu'on nous a confiées dans ce mandat. C'est ce que nous faisons, nous, les députés, à l'Assemblée nationale, en étant très mobilisés.
Okay. Le bon moment.
Vous l'avez rappelé, c'est ce que fait le président de la République en étant pleinement dans ses responsabilités. Vous savez, cette semaine, c'est une semaine importante, puisque le président de la République représentera la France au Parlement européen dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne.
C'est un bon moyen, ça, de faire campagne, la présidence française de l'Union européenne.
Moi, je crois au contraire que dans ce moment-là, où on vient parler d'Europe, on vient porter la position française, je crois que c'est utile, légitime d'être pleinement président de la République. Ça sera mercredi au Parlement européen. Ensuite, si le président fait ce choix, il pourra être candidat. Je ne fais pas de langue de bois, je le souhaite. Nous sommes très nombreux derrière le président de la République à souhaiter qu'il puisse être candidat, qu'il puisse continuer, au fond, à projeter le pays dans un avenir désirable. Parce que moi, je crois que c'est ça l'enjeu de cette campagne. Mais... Et je vois une campagne qui regarde un peu trop dans le rétroviseur. On a besoin d'un président de la République, peut-être d'un candidat demain, qui emmène la France vers un avenir désirable.
Mais pardon, Stanislas Guérini, il n'est pas en campagne, Emmanuel Macron, lorsqu'il va à Nice annoncer un programme pour la police qui ne sera pas mis en œuvre avant la fin
du
quinquennat ?
Dans ce cas-là, il est en campagne depuis le premier jour du quinquennat. Quand
ça s'accélère
agir,
un peu là, non ? Vous ne trouvez
quand,
pas depuis le mois de décembre ?
Prendre des engagements pour les
ça
années qui viennent.
Ça s'accélère ou pas depuis le mois de décembre ?
Mais vous avez vraiment l'impression que le président a ralenti de rythme pendant ce quinquennat où on a réformé la formation professionnelle, la SNCF, le marché du travail, l'assurance chômage, où on a fait une réforme de la fiscalité comme jamais il y avait eu, où on a baissé les impôts de 52 milliards d'euros.
Stanislas Guérini, ouais. Il n'a pas besoin du parti En Marche pour faire campagne,
savez, moi,
il le fait tout seul comme un grand.
Je suis très modeste et très humble, on me le reproche même parfois. Mais je crois que la force militante, la connexion avec la société civile. Ce que savent faire les marcheurs et au-delà les militants de la majorité présidentielle, 425 000, 10 000 de plus ces trois derniers mois. Voyez, Alba Ventura, il y a de l'envie dans les rangs de notre formation politique pour aller faire campagne, porter le bilan, écouter les Français. Je vous réponds en vous disant ça. Nous avons, ces dernières semaines, été écouter des dizaines de milliers de Français pour savoir justement ce qu'ils attendaient pour l'avenir. Bien, ça, c'est très utile.
Quel regard portez-vous sur la gauche social-démocrate, sur le PS qui a été votre parti quand on voit ces socialistes, cette bagarre entre Christiane Taubira et Anne Hidalgo ?
Un peu triste, d'une certaine façon, parce qu'on a besoin d'avoir un débat aujourd'hui à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. On voit bien que notre pays est un moment d'embranchement. On a des choix décisifs à faire sur l'énergie, sur l'environnement, sur l'industrie, la réindustrialisation de notre pays. Et je ne vois pas une campagne qui soit pour l'instant à la hauteur des enjeux du pays dans le moment. Et je ne vois pas une gauche...
À cause de qui ? De Christiane Taubira ou d'Anne Hidalgo ?
C'est pas une question de personne, c'est une question de projet. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui ce que le Parti Socialiste ou d'autres portent dans cette campagne. Encore une fois, nous avons des choix décisifs à faire pour le pays. Je vois un président de la République qui aujourd'hui parle industrie, qui aujourd'hui parle filière du futur, qui aujourd'hui parle numérique. Vous voyez, c'est ça les enjeux du pays. C'est ça qui va transformer notre pays et notre continent.
Et alors, vous pouvez parler, vous, parce qu'à peine annoncé vos fiançailles avec le parti d'Edouard Philippe, c'est déjà le divorce.
Non,
c'est pas. Edouard Philippe a suspendu.
Qu'il y ait
sa participation à Ensemble Citoyen. Déjà, on ne sait pas à quoi ça sert, Ensemble Citoyen.
Qui est quelques anicroches quand on construit un mouvement de telle ampleur pour pouvoir gouverner le pays dans les prochaines années. Si, je le crois sincèrement.
Non, l'essentiel... Le président ne souhaite pas qu'Édouard Philippe absorbe un autre parti dans cette alliance.
Je ne crois pas que l'intégration statutaire de telle ou telle partie de la majorité, ça soit aujourd'hui l'essentiel. On vient de parler de sujet essentiel.
Il prend trop de place, Édouard
Philippe ? L'essentiel, je vous réponds, l'essentiel, c'est qu'on soit rassemblés derrière le président de la République pour ensemble souhaiter s'engager pour les années à venir. Est-ce que ça sera le cas ? Je vous réponds sans ambiguïté, ça sera pleinement le cas avec Édouard Philippe.
Il fait la tête, Édouard
Philippe ?
Avec
Édouard Philippe, dont nous avons... J'ai eu Édouard Philippe plusieurs fois la semaine dernière.
Alors,
on échange régulièrement. Mais je peux vous garantir une chose. Il a envie de s'engager dans cette campagne. Il a envie de soutenir le président de la République. Et c'est pour moi l'essentiel.
Ben, on espère qu'il viendra le dire ici comme ça. Merci Stanislas Guérini.
Merci à vous.
Et comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à vous deux, Stanislas Guérini. Vous restez avec nous puisque dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h55, bonjour Philippe.
Parfait, bonjour.
Notre invité Stanislas Guérini est donc resté pour votre chronique.
Eh bien, j'aime beaucoup Stanislas Guérini et au risque de paraître flagorneur, sachez que vous êtes dans le top 400 de mes députés préférés.
J'en suis très heureux.
Stanislas Guérini, vous êtes un peu le Jason Statham de La République En Marche, un petit air de famille. Peu de gens le savent, mais Stanislas était le chauffeur de salle d'Emmanuel Macron pendant la campagne 2017. Barack Obama avait Beyoncé en chauffeur de salle. Macron, Stanislas Guérini. C'est différent.
Il y a moins de cheveux.
On est sur un twerk plus approximatif. Alors ne le prenez pas mal, Stanislas, mais pour moi, le roi du chauffage de salle, ça reste mon cri-cri castaner. Hein. Magnéto, Serge.
Qui saute pas n'est pas Marseillais. Okay. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ouais.
Alors. Certes, c'est toujours gênant, mais il a été meilleur chauffeur de salle que ministre de l'Intérieur, rappelons-le.
Bon, Stanislas Guérini a été l'un des fondateurs d'En Marche, rappelons-le.
Oui, Stanislas, vous avez rejoint très tôt cette jeune et dynamique équipe constituée de Ismaël Emelin, Cédric O et Benjamin Griveaux, aussi surnommé 37-2 le matin, au repos, ce qui nous donne l'occasion de rendre un élégant hommage au talentueux Jean-Jacques Benex, qui vient de disparaître.
Très élégant, bien entendu. Alors, on vient de parler de l'état de la gauche. Samedi, Christiane Taubira donc annonce officiellement sa candidature.
Alléluia, Yves ! La gauche est sauvée ! Kiki Taubira est candidate avec un programme électoral clair, faire chier Hidalgo. Alors, il y a 20 ans, elle empêchait Lionel Jospin d'être au deuxième tour. Aujourd'hui, elle va juste empêcher Hidalgo de faire plus de 5%. Elle sera molly, Kiki la fiesta. Taubira, c'est le supporter de foot qui arrive à poil sur la pelouse à la 88e juste pour foutre le bordel. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Alors, je tiens à défendre Christiane, vous me connaissez. Il est injuste de dire que c'est elle qui va tuer la gauche. Quand t'as un cancer du pancréas, du foie et des métastases au poumon, c'est pas une petite piqûre de moustique sur le cul qui va te faire du mal.
Mon Dieu. Le Sénat a adopté le passe-vaccin. Mais on note que la manifestation des antipasses était en forte baisse samedi dernier.
Oui, hein. C'est la preuve que Macron avait raison. Avant, la stratégie du gouvernement, c'était tester, tracer, isoler. Maintenant, c'est disputer, engueuler, insulter, et ça marche. Il y a 5 millions de non-vaccinés en France, alors je pose la question qui dérange. Yves, les non-vaccinés sont-ils tous des cons? La réponse est non, car il y a beaucoup plus que 5 millions de cons en France, enfin... Et puis, il y a des triples vaccinés qui sont des triples cons, ça n'empêche rien.
Nous sommes aujourd'hui à J-83 du premier tour, et vous avez un pronostic.
Enfin... C'est plié, on se dit la vérité, on fait tous semblant ici. On sait bien que Macron, c'est Nadal à Roland-Garros, Messi pour le Ballon d'Or, ou Michel Bouquet au Molière. Moi, je vous le fais le soir du second tour. Et c'est Emmanuel Macron qui remporte pour la deuxième fois d'affilée le César du meilleur président de la République. Bah écoutez, j'ai rien préparé, je m'y attendais vraiment pas. Merci à Brigitte, j'aperçois Jean Castex, merci Jean. Et j'emmerde encore plus les non-vaccinés, bonsoir. Ça va faire ça. Gardez-le en machine, ça va faire ça.
Rappelez-vous. Alors, après le cinéma, le sport, l'Open d'Australie débute ce lundi sans Novak Djokovic, qui a donc été expulsé
du
pays.
Djoko, le Florian Philippot en short Lacoste a été expulsé. Vous vous rendez compte que Novak a gagné 9 fois l'Open d'Australie. Mm-hmm. Il est nonuple vainqueur du tournoi, alors que Gaël Monfils est zéro-uple. vainqueur de ce tournoi et de son gars Gasquet Zéro-Huple. Si on additionne toutes les victoires de toutes les tennismen français depuis 400 ans, eh bien, on est en dessous d'une année moyenne de Novak. Il faut distinguer le con du tennisman. Voilà.
Bon, on finit avec Éric Zemmour qui a estimé que les enfants en situation de handicap devaient être scolarisés dans des établissements spécialisés et non avec les autres enfants.
Après les étrangers et les gays, maintenant les handicapés. Zemmour, c'est le Benetton de l'exclusion. Alors, pardon, j'ai tendance à penser l'inverse d'Éric. Je crois que les personnes fragiles ou en situation de handicap, bah, faut les aimer un peu plus. Alors, pas autant qu'Émile Louis qui les aimait trop, mais faut tenter de les aimer un peu plus. Alors, je n'ai pas lu le livre d'Éric Zemmour, mais je lis en ce moment ce livre d'Alexandre Jolien. Vous connaissez Alexandre qui est handicapé, mais qui pense plus vite que nous et qui pense surtout beaucoup mieux qu'Éric Zemmour. Il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et pour reprendre les mots du président, je crois qu'il y a 12 millions de personnes qui vous emmerdent ce matin, monsieur Zemmour. Musique, on finit avec une chanson d'handicapé.
Brévière qu'on retrouve tous les matins sur RTL et sur notre appli RTL.fr. Merci Philippe, merci d'être resté avec nous Stanislas Guérini, bonne journée. On va maintenant s'intéresser à notre météo grâce à vous Louis Baudin.
Oui, qui est très grise, très humide ce matin, grisaille partout accompagné de brouillard à Saint-Quentin, Charleville-Mézières, à Chartres, à Blois, à Tours, il y en a à Saint-Brieuc, à Niort, à Bergerac ou encore à Albi, parfois ça donne des chaussées glissantes, donc soyez prudents encore hein, pour quelques heures, le temps que les températures deviennent positives, parce qu'on a beaucoup de gelée dans la moitié sud, des valeurs à peine proches de 0 degré. Dans les régions du nord-est, cette grisaille va persister toute la journée, sauf entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, où là le soleil va s'imposer, avec un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion. Peut-être quelques éclaircies près de la Manche cet après-midi, où les températures ne dépasseront pas les 4 à 8 degrés, quelle que soit la région, sauf près de la Méditerranée, où là on aura quand même 11 à 14 degrés.
Merci beaucoup Louis Baudin, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, RTL au plus près du pays, au cœur de la campagne électorale.
Avec ce nouveau rendez-vous qu'on inaugure ce matin jusqu'au second tour, 7 jours, 7 reportages, une semaine au même endroit ou sur la même thématique pour aller en profondeur. Valentin Boisset installe son micro RTL toute la semaine rue de la République à Orléans. Premier épisode à suivre avec les étudiants qui rentraient le week-end hier soir. À la une également, voilà qu'on nous promet à nouveau des jours heureux pour le patron de Pfizer. La vie normale en France, ce sera au printemps. Emmanuel Macron lui annonce la création de 10 000 emplois au moins grâce à 4 milliards de nouveaux investissements étrangers en France. Pfizer, tiens par exemple, va fabriquer son nouveau médicament Covid dans les Pyrénées-Atlantiques. On y sera. Dans ce journal, drôle de projet immobilier, un lotissement destiné aux chrétiens en Indre-et-Loire. Des habitants dénoncent un communautarisme qui ne dit pas son nom. Et puis Novak Djokovic dans l'avion, il a quitté l'Australie avec beaucoup de soucis dans les valises. Sa participation maintenant à Roland-Garros est compromise.
Eh bien justement, à 8h32, ce sera le thème de notre nouveau rendez-vous tous les matins sur RTL France 2022. Faut-il obliger l'ensemble des sportifs à être vaccinés? Avant cela, dès la fin de ce journal, le sort de l'info avec vous, Cyprien Sili.
Et la nouvelle série qui cartonne, la fabuleuse aventure de la gauche pour 2022.
Et puis à 8h20, notre débat du jour, faut-il augmenter les frais d'inscription à l'université?
RTL Matin.
Et on commence donc avec ce nouveau rendez-vous sur RTL, rendez-vous de reportage qui va rythmer sur notre antenne la campagne électorale jusqu'au second tour. Des immersions concrètes au plus près de vos préoccupations. 7 jours, 7 reportages, toute une semaine au même endroit ou sur le même thème pour prendre le temps de vous parler. Valentin Boisset, vous allez rester jusqu'à dimanche, rue de la République à Orléans.
Oui, et au bout de la rue, il y a la gare avec des grappes d'étudiants munis de leur sac à dos le week-end. Et fini, ils sortent donc du train ou de voiture comme Maxime, 19 ans.
Covoiturage, un peu moins cher.
Le train, je trouve que c'est cher, 20 euros. Je suis boursier, pour moi c'est pas envisageable.
Le jeune homme salue Charlotte, une collègue de sa licence qui presse le pas.
Il faut clairement que je travaille, je fais des extras.
Direction un restaurant, car en parallèle de ses cours de biologie, elle doit travailler.
Je suis un peu en galère quoi.
T'es dans le rouge parfois?
Tout le temps. En général, quand je commence le mois, je rembourse à peine mon découvert.
Étudier n'est donc pas gratuit, selon elle. Les deux étudiants affirment ensuite que la campagne présidentielle les a pour la première fois interpellés il y a quelques jours à travers un certain Emmanuel Macron.
Il a dit, on peut pas laisser les universités gratuites pour tout le monde tout le temps, enfin c'est pas possible, enfin il veut faire comme aux États-Unis, en fait c'est grave.
Ça inacceptable tout simplement. Quel prix ça va coûter? Pour moi ça n'a aucun sens.
En fait je vois absolument pas dans quel sens c'est pour lutter contre la précarité étudiante. Juste il va supprimer les étudiants pauvres de l'université.
Pour toi c'est pas digne de la République justement?
Non je pense pas, parce que c'est facile de dire la République quand les seules personnes qui sont écoutées c'est les gens qui ont de l'argent quoi.
Anthony, un étudiant en sciences du langage, pose son sac au sol, il veut aussi aussi participé à cette discussion.
À Orléans, donc là où je suis, il y a des salles qui sont louées par des entreprises. C'est notre lieu de travail, etc. Donc on en a besoin. Quand on y réfléchit, c'est que les universités, elles sont vraiment en manque d'argent aussi.
Sous le panneau de la rue de la République, ils en font la promesse. Ils voteront en avril et le sort de l'université sera leur première priorité.
Merci Valentin Boisset. On vous retrouvera donc tous les jours à Orléans dans ce journal de 8 heures. Cette série, 7 jours, 7 reportages se poursuivra jusqu'au second tour de la présidentielle. Et vous la retrouvez comme toujours sur le site et l'application numérique RTL.
8h04, l'actualité sanitaire maintenant. Voilà qu'on nous promet à nouveau des lendemains qui chantent.
Alors on se méfie parce qu'on nous a déjà fait le coup des jours heureux. Mais effectivement, là c'est le patron de Pfizer qui affirme dans le Figaro que nous allons retrouver une vie normale en France au printemps. Avec l'hypothèse donc que finalement, la déferlante actuelle, en plus de la vaccination, nous offre une forme d'immunité collective en limitant en tout cas le nombre de formes graves à l'hôpital. Et c'est vrai qu'en plus, ça se confirme, Omicron faiblit, Agathe Landais.
Oui, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de nouvelles contaminations par rapport à il y a une semaine. Ces dernières 24 heures, on a détecté 278 000 cas positifs. C'est 17 000 de moins que dimanche dernier. Et c'est surtout la première fois depuis le début de cette cinquième vague que les contaminations ralentissent et que le taux d'incidence se stabilise. Il est même en baisse très nette dans la tranche d'âge des 20-29 ans et chez tous les plus de 50 ans. Ces données sont donc encourageantes, mais il faut encore attendre quelques jours pour bien pouvoir les interpréter. On saura alors si les courbes sont en baisse, ce qui confirmera une décrue de l'épidémie ou si elle forme un plateau à un niveau élevé de contamination. Mais dans tous les cas, même si le pic est atteint, l'hôpital va rester encore sous pression pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, les admissions en réanimation sont en baisse, mais elles continuent toujours d'augmenter dans les services d'hospitalisation conventionnels.
Merci Agathe Landais, spécialiste santé à RTL. Le pass vaccinal lui a été adopté définitivement par les députés, obligatoire donc pour les plus de 16 ans. Les patrons de bars-restaurants pourront contrôler les identités en cas de doute et les sanctions sont alourdies pour les détenteurs de faux passes. À la demande de l'opposition de gauche, le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer. La mise en application effective ne pourra donc pas se faire avant plusieurs jours.
Une bonne nouvelle maintenant pour notre économie et nos emplois.
Emmanuel Macron annonce 4 milliards d'euros d'investissement en provenance de l'étranger dans 21 nouveaux projets industriels. Et notamment, on parlait de Pfizer qui va mettre 520 millions sur la table pour fabriquer son nouveau médicament anti-Covid Paxlovid dans un laboratoire sous-traitant de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Patrice Laurent est le maire de la ville.
Je suis ravi que cette annonce soit faite aujourd'hui par le patron de Pfizer. Elle confirme cet investissement et c'est une excellente chose. C'est de l'emploi. Il faut savoir que 1 million d'euros investis dans l'industrie, c'est un emploi de créé, donc de la richesse pour notre territoire. On a la chance d'être sur un bassin industriel qui a 7000 emplois industriels. On démarre l'année avec tous les voyants ouverts sur le plan économique. C'est excellent. Ça sera un booster sur l'économie locale.
Voilà donc la bonne nouvelle pour le maire de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. En tout, c'est 4 milliards d'investissement en provenance de l'étranger pourrait créer 10 000 emplois selon l'Élysée, plus 16 000 emplois en intérim.
En attendant, là encore des jours meilleurs, les magasins de vêtements tirent la langue.
Oui, les soldes démarrent dans l'indifférence quasi générale. Le premier week-end a été mauvais et pas uniquement d'ailleurs à cause du Covid. On va en parler avec la brigade RTL. On est avec vous, Antoine Decarne. Le moral n'était pas bon ce week-end à Lille.
Oui, dans les rues pavées du centre-ville lillois, j'entre dans le magasin de vêtements pour femmes de Frédéric.
Bonjour.
Et visiblement, ce n'est pas l'affluence des grands jours.
Ça se passe pas bien. Il y a personne. Je solde à peu près toute la collection, de moins 10 jusqu'à moins 50, pour pouvoir faire un peu de trésorerie.
La situation de Frédéric illustre bien les problèmes du secteur. Selon la fédération Allure, qui rassemble les magasins d'habillement, la décroissance est historique. De 2018 à 2020, l'activité économique a baissé de 25%. Et en 2021, c'est encore un recul de 19%. Tout cela au profit d'autres secteurs.
Internet. Les réseaux sociaux, Vinted, les magasins de seconde main, oui, qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Franchement, moi, mon métier, c'est mort.
Et oui, effectivement, Antoine, le problème, c'est que le Covid a a modifié clairement nos habitudes en matière de shopping.
Oui, l'achat en seconde main a envahi les penderies. Pauline est une Lilloise de 25 ans et dans la sienne, c'est assez clair.
Ce trench-là, je l'ai eu sur Vinted. Là aussi, j'ai un tailleur qui vient également de Vinted. Puis si on est sur du Emmaüs, quand on voit la différence, les économies, en fait, ouais, c'est énorme.
En fait, cette année, elle n'a même pas fait les soldes.
Malgré ces promotions, on trouvera toujours mieux sur un site de seconde main.
Alors, si le web, tout site confondu, pourrait atteindre jusqu'à 25% des ventes en 2022-2023, les achats en seconde main, eux, représentent déjà 10% et cela ne cesse de croître.
C'est aussi une manière d'être plus responsable au niveau de l'environnement et puis aussi pour éviter tout ce qui est surconsommation.
Et même les bons vieux vide dressing un peu oubliés retrouvent la cote. Ils sont à la mode en ce moment. Il y a 2 mois, Pauline en a même organisé un.
Juste le terme vide dressing, ça fait venir. Le principal intérêt, c'est de consommer de manière responsable.
C'est donc une nouvelle façon d'acheter complètement à rebours des magasins traditionnels et de leurs vêtements neufs, d'où l'effondrement actuel du secteur.
Merci beaucoup Antoine Decarne. Les soldes en demi-teinte donc à Lille, c'était l'enquête ce matin de la brigade RTL. Éric Zemmour sera cet après-midi s'il est à nouveau condamné par la justice. Poursuivi pour provocation à la haine raciale, le parquet avait requis 10 000 euros d'amende pour ses propos sur les mineurs isolés qualifiés dans son émission sur CNews de voleurs, de violeurs et d'assassins.
Dans un instant, ce projet étonnant, immobilier, un lotissement qui se proclame destiné aux chrétiens sur RTL. A tout de suite.
RTL Matin.
8h11, la suite du journal d'Olivier Bois. Un projet immobilier qui fait polémique dans le département d'Indre-et-Loire.
Oui, projet qui interroge effectivement la construction d'un lotissement destiné en théorie aux chrétiens, Christian Panvert.
Le promoteur, la société Monasphère, se présente comme concepteur de projets immobiliers à proximité de lieux spirituels chrétiens. Il propose un hameau de 17 maisons à 1 km de l'église Saint-Gilles où des enfants auraient assisté à une apparition de la Vierge Marie en 1947. Dans les rues de l'île Bouchard, ce projet fait forcément réagir. Françoise est plutôt pour.
Si ça peut apporter quelques commerces en plus, peut-être une boulangerie, une boucherie, ça serait pas de trop. Hein.
Les futurs voisins qui n'ont pas été informés sont inquiets.
Pourquoi que des chrétiens? On peut pas faire un mélange de population? Sincèrement, moi ça me gêne.
On va cantonner les gens encore.
C'est un peu stupide de stigmatiser les chrétiens.
La maire de la commune ne souhaite pas s'exprimer. Les terrains appartiennent à la communauté de l'Emmanuel qui organise des retraites et des événements autour du sanctuaire marial. Une représentante rencontrée sur le marché semble bien embarrassée.
Je suis en réserve par rapport à ça. Je sais pas.
Le porteur du projet devra aussi être plus précis sur les critères qui vont motiver l'attribution de ces logements dont il espère l'ouverture en 2024.
Reportage de Christian Panvert, étonnant ce projet immobilier. Oui. À l'étranger, des millions d'Américains de l'Est du pays se mettent à l'abri alors qu'une tempête hivernale majeure est en train de frapper du Tennessee à l'État de New York. Il pourrait tomber jusqu'à 30 cm de neige. Les vents pourraient atteindre également la force d'un ouragan le long de l'Atlantique. 145 000 personnes sont d'ores et déjà privées de courant.
Pendant ce temps, l'Open d'Australie a donc commencé sans Novak Djokovic.
Et pendant que Rafael Nadal se qualifiait le plus tranquillement du monde, le numéro 1 mondial, lui, était dans l'avion. Il est arrivé à Dubaï, en attendant de pouvoir rentrer au pays. De la colère et de nouveaux soucis, surtout dans les valises. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Parce que c'est maintenant sa participation à Roland-Garros qui, en l'état de son statut vaccinal, est plus que menacée.
Oui, hier après l'annonce de la justice australienne, la Fédération française de tennis disait encore travailler avec les autorités sur l'accueil des joueurs étrangers non vaccinés. Comprenez, Novak Djokovic aurait pu être sur le court Philippe Châtrier fin mai. Il y a 10 jours, la ministre des Sports évoquait l'idée d'une bulle sanitaire comme l'an dernier. Mais le vote à l'Assemblée hier a mis les choses au clair. Sur Twitter, Roxana Maracineanu précise dans la foulée, dès la promulgation de la loi, le pass vaccinal sera obligatoire là où le pass sanitaire s'appliquait. Et ça, pour l'ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers. S'il ne se fait pas vacciner, Djokovic, tenant du titre, cocherait donc toutes les cases qui l'empêcheraient de décrocher à Roland-Garros un 21e titre en Grand Chelem. Alors là, on parle de tennis, mais la règle va s'appliquer pour toutes les compétitions chez nous, par exemple la Coupe d'Europe de rugby ou les prochains matchs de Ligue des Champions de football.
Merci beaucoup Hortense Crépin. Notons que Gaël Monfils s'est qualifié ce matin pour le second tour, la tenante du titre Naomi Osaka également. C'est terminé en revanche pour les Françaises Kristina Mladenovic et Fiona Ferro à l'Open d'Australie. Le football en clôture de la 21e journée de Ligue 1 hier soir, Lille réduit à 10, a tenu le match nul un partout face à Marseille au Vélodrome. Nice est donc deuxième devant Marseille et derrière le PSG. Et puis l'équipe de France de handball est très bien partie pour se qualifier pour le tour principal finale de l'Euro. Après deux premières victoires, les Bleus affrontent la Serbie ce soir à 20h30.
C'était le journal d'Olivier Bon. On vous retrouve donc à 8h30 et à 9h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Dans un instant, Cyprien Siné, oui. Son surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec la grande confusion à gauche.
Ah oui, c'est une vraie série. À tout qui s'offre à nous.
RTL Matin.
Vas-y, Yves, c'est bon. Vas-y mon Yves, c'est bon, bon, bon. Vas-y mon Yves, c'est bon. Vas-y mon Yves, c'est bon, bon, bon.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Siné.
Alors vous surfez avec la grande confusion à gauche ce matin.
Ah, c'est en train de devenir un véritable feuilleton du surf de l'info. La fabuleuse aventure de la gauche pour 2022, épisode 2 générique. La meilleure série française du début d'année avec Anne de Paris.
Ça va pas, quoi.
Non, ça va pas du tout. Avec Christiane qui arrive toujours en retard.
Je prends et j'accepte le risque de la démocratie.
Mais aussi avec Jean-Luc l'Insoumis.
Oh là 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 là.
Si, 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 si. Et Yannick le Géant Vert.
Il y aura un bulletin Jadot.
Et pour ce nouvel épisode, dans le monde merveilleux de la gauche française, événement. Oui, ce week-end, dans le froid de la ville de Lyon, Christiane, tout en mitouflée dans sa doudoune, a annoncé...
Je suis candidate à la présidence de la République.
Et une de plus, et là, on se remémore. Christiane Taubira, le 16 septembre dernier, expliquant...
Je ne peux pas venir contribuer à l'éparpillement. L'enjeu est colossal. Et c'est pour ça que je ne peux pas aller justement, gentiment, m'aligner en tant que 7e ou 8e candidate de la gauche. Oui. On ne peut pas s'amuser et simplement s'asseoir et dire « Je suis candidat, je suis candidat ».
Et donc, 4 mois plus tard...
Je suis candidate.
Voilà, voilà. Bon, il y a quand même cette primaire populaire avant à laquelle personne ne veut participer. Sauf Christiane. D'ailleurs, il faudrait peut-être arrêter d'en parler à Jean-Luc de la primaire. Hein.
Nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche. Oh là 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 !
Oui, au bout du rouleau avec cette histoire, un peu comme Yannick, qu'il a encore répété hier sur RTL.
J'ai jamais voulu participer à ça. Aujourd'hui, moi, ce que je fais dans cette campagne, c'est la guerre pour le climat. C'est pas la guéguerre avec la vieille gauche ou au sein de la vieille gauche.
Bon, et puis Anne, de son côté, elle a enfin été claire. La primaire, c'était non, puis oui. Puis on sait pas trop, mais là elle l'a dit.
Maintenant, pour moi, la page est tournée.
C'est votre dernier mot, Anne ?
Oui, plus la peine de poser la question.
Ouf, c'est son dernier mot, Jean-Pierre. Et sur la candidature Taubira, ben...
C'est une candidature de plus, donc c'est une mauvaise nouvelle. Je crois que ça crée de la confusion. Je crois que pas grand monde ne comprend aujourd'hui.
Oui, on peut le dire, on ne comprend plus rien. Même Christiane, en fait, on n'est pas certain qu'elle comprenne. Samedi sur France 2, Laurent Delahousse lui a posé une question assez simple.
Une question, si Jean-Luc Mélenchon, par hasard, remporter cette primaire, alors qu'il n'est pas candidat. Cela veut dire que vous ne serez pas candidat. Deux.
Réponse a priori simple. Deux options s'offrent à elle. Oui ou non? Et bien avec Christiane, c'est troisième voie.
La primaire qui pourrait permettre l'union de la gauche est une primaire pour assurer le rassemblement.
Donc
ça n'est pas un dispositif de suggestion ou d'humiliation. Donc la personne...
Ouais, bon, c'est bon. De toute façon, on n'aura pas de réponse claire.
Non, je ne pense
ou
pas.
Alors dans un prochain épisode de la fabuleuse aventure de la gauche pour 2022.
Merci Cyprien. À ce soir pour votre émission quotidienne On défait le monde.
Absolument.
18h40.
L'info autrement, jusqu'à 19h.
Rendez-vous est pris.
RTL Matin.
Le choix d'Yves Calvi.
C'est donc notre débat ce matin sur RTL. Emmanuel Macron s'est exprimé à propos de la formation en visant particulièrement les universités. Le président réclame une réforme systémique et profonde du troisième cycle. Bonjour Mélanie Luce.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'UNEF et étudiante en droit. Bonjour Olivier Babot.
Bonjour Yves Calvi.
Président de l'Institut Sapiens. Le président Macron souhaite donc notamment revoir le coût d'admission dans les universités. Mélanie Luce, vous êtes inquiète par cette prise de parole présidentielle ?
Plus qu'inquiète. En fait, j'ai une chose. Enfin, on a découvert une seule chose, je pense, jeudi. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il emmerde pas seulement les non-vaccinés, il emmerde aussi les étudiants, puisque depuis le début du quinquennat, on a enchaîné non seulement la sélection à l'université, et donc aujourd'hui, on a 91 000 personnes qui, chaque année, n'ont pas de place en licence. En plus, l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, et de nombreuses réformes, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais concrètement, ça a été des étudiants qui, non seulement ont subi les réformes, mais en plus, ont vécu une précarité extrême. Nous, on a dû organiser des distributions alimentaires pour les étudiants, on a eu des vagues de suicides, et maintenant, on nous dit... va falloir payer un peu plus. Ça commence à devenir... ça commence à se voir, quoi.
Les études n'ont pas de prix, selon vous.
Alors, les études n'ont pas de prix. Elles ont déjà un prix aujourd'hui. Moi, j'ai déjà du mal à payer mes frais d'inscription aujourd'hui. Donc, elles ont déjà un coût. Et par ailleurs, elles sont financées comment, les études? Quand on parle de l'investissement public, c'est quoi? C'est l'impôt. L'impôt, c'est toute la société qui le paye. Quand on va dans la rue, on va dans un supermarché, on achète une bouteille d'eau, on va payer une partie, c'est la TVA. Avec cette TVA-là, eh ben, on a des fonds publics. Ces fonds publics-là, ils sont utilisés pour faire en sorte que tout le monde puisse faire des études.
Avant de donner la parole à Olivier Babot, vous êtes étudiante en droit, hein, on le rappelle. Oui. Quels ont été vos frais d'inscription cette année?
Alors, bah ça dépend, j'en ai eu deux, puisque j'ai d'un côté mes frais d'inscription en licence et de l'autre ceux pour préparer, en master, pardon, et ceux pour préparer le barreau. Donc j'ai d'un côté 700 euros à payer pour le barreau et de l'autre 243 à payer pour le master, plus 90 euros à payer de cotisations d'étudiants d'aide campus. Ce n'est pas gratuit.
Olivier Babot, il a raison de vouloir remonter le tarif de cet accès à l'université, notre président.
Il y a un mot qui est vraiment piégé qu'on ne devrait pas utiliser, c'est le mot gratuit. Parce qu'en fait, évidemment, ça n'est pas gratuit. La question, c'est la répartition du coût entre le contribuable et l'usager d'un service.
Vous venez de nous dire il n'y a pas de service gratuit, il y a toujours un moment quelqu'un qui paye, c'est ça ?
Exactement. D'accord. Et la question est celle de la répartition du coût pour créer des bonnes incitations. Bon, aujourd'hui, un étudiant en moyenne, même si en fait ça varie beaucoup selon le niveau, mais c'est 11 500 euros par an que ça coûte à la collectivité. Aujourd'hui, il en assure une partie epsilonesque, extrêmement faible, effectivement qui grossit plus vous allez vers le doctorat et plus vous assumez, mais au tout début, c'est extrêmement peu. Ça ne veut pas dire que c'est pas cher de faire des études, il faut vous loger, il faut vous nourrir, évidemment, c'est évidemment un coût, mais évidemment, il faut arriver à trouver les bonnes incitations. Et est-ce que l'idée d'aller vers un moment où on va payer un petit peu plus, sachant qu'il y a déjà 38% d'étudiants qui sont boursiers, c'est-à-dire qui ont des aides particulières, évidemment sur critères de revenus. Alors, au 2019, si je ne me trompe pas, mais peut-être que mon chiffre date un peu,
on c'est quand dit même en gros qu'on a un tiers de nos étudiants
français. On n'est pas encore aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 47 000 euros hein, pour une année, hein, facilement. On est quand même extrêmement, extrêmement loin de ces montants-là, de toute façon.
Mais est-ce qu'on peut demander aux étudiants français qui traversent et qui affrontent déjà des difficultés d'aller plus loin, en tout cas, ou à leur famille, de le faire avec eux
Ce qui est certain, c'est que cette réforme, et d'ailleurs, l'interview du président, elle est extrêmement large, elle s'inscrit forcément dans une réforme systémique extrêmement profonde, avec effectivement de la sélection, une logique non plus seulement sur la demande des étudiants, mais aussi une logique un peu plus sur les débouchés. Il faut se rappeler qu'en sciences humaines et sociales, 30 mois après la sortie du bac plus 5, c'est-à-dire quand vous l'avez, vous êtes seulement à 57% d'insertion dans un emploi stable. Alors que si vous êtes en droit éco-gestion, vous êtes
vous nous dites on forme des chômeurs à l'université française.
Non, pas nécessairement, mais disons que on n'a pas toujours une bonne réflexion de l'adéquation, en effet, de ce qu'on forme au marché du travail. Et attention, je ne veux pas dire que je suis professeur d'université. Je ne veux pas dire que l'université ne sert qu'à professionnaliser. Il y a aussi, évidemment, pour moi, deux jambes qui ont aussi, évidemment, la transmission du savoir.
Mélanie Luce.
Non, mais alors déjà, corrigeons les chiffres. Il y a 89% d'insertion professionnelle à 18 mois pour un titulaire de master 2. C'est les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est pas mes chiffres. Donc, je pense que c'est aussi important à avoir en tête. Et ensuite, on parle de quelle incitation ? C'est quelle université qu'on veut construire là ? Parce que l'incitation de faire payer les étudiants étrangers 3 770 euros, ça nous a donné quoi ? Une baisse du nombre d'étudiants étrangers qui rejoignaient la France. Là, on est en train de construire une université pour seulement une catégorie de la population. On est en train de construire une université qui évince les étudiants pauvres de l'université. On est en train de construire une université qui est en train de renforcer la reproduction sociale. Quand on parle sélection, quand on parle augmentation des frais d'inscription, c'est la vie des gens qui se joue. C'est notre avenir. C'est-à-dire qu'on va refuser à des étudiants d'étudier. On va leur refuser donc de construire leur avenir professionnel. Ça, c'est quand même particulièrement important.
Est-ce que, à la lumière de ce que vous venez de nous dire, je vous pose la question, est-ce que l'université doit forcément accueillir tout le monde ? On avait l'ambition, pardonnez-moi, d'amener tout le monde au bac. Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'ambition d'amener tout le monde à l'université ? Et est-ce que ça a un sens ?
Alors, l'université doit pouvoir accueillir effectivement un maximum de monde, tout simple. Pourquoi ? Parce que les besoins de la société sont là. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, l'Union européenne nous demande d'augmenter notre taux de diplômés, de titulaires d'un Master 2, pour faire en sorte de faire face aux différentes transitions auxquelles on doit faire face. Donc la transition écologique, transition numérique, énormément de choses pour lesquelles il faut des diplômés. Donc c'est une nécessité sociale. Par ailleurs, l'objectif, c'est pas qu'il y ait que l'université. Nous, on défend aussi les filières courtes, les BTS, les IUT. Il y a des jeunes qui ne souhaitent pas aller à l'université, qui souhaitent aller dans ces filières-là.
Vous savez qu'on a quand même un taux d'échec incroyable en première année à l'université.
Mais alors, on va pas lutter contre l'échec en évinçant les gens qui échouent. Peut-être qu'il faut faire des choses pour qu'ils arrêtent d'échouer. C'est ça la solution. Enfin, concrètement, moi je trouve qu'on est assez sadique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est assez sadique quand il nous dit que non seulement on a dû traverser la croix et la bannière pour pouvoir continuer d'être sur les bancs de l'université aujourd'hui, et ensuite on va devoir trouver une solution pour payer des milliers d'euros. Parce que vous dites qu'on n'est pas encore au système américain. Mais on va rentrer dans quelle compétition? Une compétition de l'endettement étudiant? Une compétition de l'université réservée aux plus riches? Parce que c'est ça la compétition qui se joue en ce moment entre l'Angleterre, les États-Unis, etc.
Olivier Babeau vous répond.
Oui, une compétition qui existe déjà, des compétences, de l'attractivité et en effet des cerveaux à former. Alors aujourd'hui, en première année, vous avez seulement 40% des gens qui passent en deuxième année. Sur les 60%, vous avez la moitié qui abandonnent. Effectivement, on ne peut pas se satisfaire de ça. Les enjeux sont extraordinaires. L'université est plus essentielle que jamais. Et pour ça, on a besoin de moyens supplémentaires. Ces moyens supplémentaires, ils peuvent être donnés par ces droits. Ça ne veut pas dire que l'argent doit être un problème. On peut imaginer, par exemple, un système de bourse qui ne soit remboursable que si vous atteignez un certain niveau de revenu, ce qui permet à tout le monde de faire des études, quoi qu'il arrive, s'il en a le désir et les capacités.
Bon, on a besoin de réformer l'université dans notre pays.
Je crois que c'est absolument évident. D'ailleurs, si vous interrogez les enseignants, si vous intéressez les étudiants, vous avez aujourd'hui beaucoup de mécontentement. Il faut profondément revoir l'université pour qu'elle fasse mieux que jamais ce qu'elle sait faire, transmettre du savoir, préparer à l'utilité dans le monde économique. Ce sont ces deux jambes absolument essentielles.
Voilà. Je compte sur vous, une phrase.
Il faut réformer, oui. Il faut augmenter les financements publics. On a une baisse des financements publics en 10 ans de 16%. Il faut révolutionner nos pédagogies. Ce qui fait qu'on échoue, c'est que les pédagogies universitaires ne sont pas adaptées. On n'a pas d'adaptation non seulement aux étudiants qui sont en difficulté, mais aussi au fait qu'on arrive dans des amphithéâtres immenses et qu'on a une pédagogie qui est très descendante. Il faut réformer l'université pour faire en sorte que justement on ait des débouchés qui soient pluridisciplinaires. Tout ça, c'est l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 5 ans et c'est l'inverse de ce qu'il nous promet aujourd'hui.
Merci Mélanie Luce, présidente de l'UNEF et étudiante en droit, et merci Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens. Vous m'avez intéressé, donc vous avez intéressé nos auditeurs. Dans un instant, ce qu'il faut retenir de l'actualité et puis notre point météo à 7 jours avec Louis Bedin.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Bernard Lehu.
Laissez-vous tenter.
Frédéric Becbédé tombe le masque et ça n'a rien à voir avec la pandémie. Dans son nouveau livre, Un barrage contre l'Atlantique, l'enfant gâté des lettres françaises, le dandy des boîtes de nuit, s'y révèle apaisé, mûri, comme réconcilié avec lui-même. Les surprenantes confidences de Frédéric Becbédé, c'est dans Laissez-vous tenter et c'est à 9h.
Matin, Yves Calvi.
8h30, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. L'essentiel de l'actualité en trois titres ce matin avec Olivier Bois.
Emmanuel Macron promet la création de 26 000 emplois directs ou indirects. Il annonce 4 milliards d'euros de nouveaux investissements étrangers en France. 21 projets industriels en tout, notamment Pfizer qui va en partie fabriquer son nouveau médicament anti-Covid à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Le pass vaccinal a été adopté dans sa mouture définitive, obligatoire donc pour les plus de 16 ans. Les patrons de bars-restaurants pourront contrôler les identités. Il faut attendre l'examen au Conseil constitutionnel avant l'application effective espérée d'ici la fin de semaine. Novak Djokovic a quitté l'Australie. Ses soucis ne sont pas terminés. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, nous confirme qu'il faudra également un pass vaccinal pour Roland Garros. Côté sportif à Melbourne, Rafael Nadal, Gaël Monfils et Naomi Osaka, tenantes du titre chez les femmes, se sont qualifiées pour le second tour. Et puis un dernier mot de sport, Marseille et Lille ont fait match nul hier un partout au Vélodrome. En clôture de la 21e journée de Ligue 1.
Ah bah donc c'était l'essentiel de l'actualité en 30
titres et demi. Il y en avait un gratuit.
D'accord. On se retrouve à 9h, Olivier, merci. Alors, notre météo à 7 jours, Louis Bodard.
Oui, avec beaucoup de grisailles, on l'a dit aujourd'hui, avec des nuages, peu d'éclaircies, sauf dans l'extrême sud. Bah demain, ça sera la même chose, avec un ciel qui restera gris hein, quasiment partout. Il faudra être dans le sud-sud, sur les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée pour avoir du soleil. Sous cette grisaille, on aura parfois quelques petites bruines, quelques flocons parfois dans l'est, des brouillards. Bref, journée assez désagréable, les températures comme aujourd'hui, avec des gelées très fréquentes le matin et des valeurs de saison l'après-midi entre 4 et 6, 7 degrés grand maximum, sauf près de la Méditerranée, même chose pour mercredi. Jeudi, j'ajoute une petite perturbation qui va glisser du nord vers le sud, avec donc probablement de la neige jusqu'en plaine dans les régions de l'Est. Hein. Donc ça, c'est jeudi, oui, avec du froid donc et un peu de neige, on va affiner les quantités au fil des jours. Vendredi, encore beaucoup de grisailles, toujours du froid intense, hein, parce qu'entre jeudi et vendredi, il fera encore plus froid. Et puis pour le week-end prochain, première temps tendance anticyclonique avec peut-être quelques espoirs d'avoir des éclaircies l'après-midi, mais c'est trop loin pour être fiable et précis.
Je vous ai bien compris, on va affiner les quantités de neige.
Oui, c'est ça, pour la journée de jeudi, notamment en montagne, notamment dans l'Est.
C'est dit, merci beaucoup Louis Bedin. Dans un instant, notre débat France 2022, on revient ce matin sur la vaccination obligatoire, notamment dans le monde du sport.
RTL Matin, France 2022.
2022.
Il est 8h35 et dans France 2022, on revient ce matin sur la vaccination obligatoire, notamment dans le monde du sport, avec ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Djokovic. Et pour en parler, j'accueille Isabelle Choquet, Isabelle Langer du service des sports, notre spécialiste tennis, et Christian Olivier, chef du service des sports d'RTL. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Les athlètes français et étrangers devront donc se soumettre au pass vaccinal. Notre ministre des Sports l'a annoncé hier soir sur Twitter. C'est la réponse française à l'affaire Djokovic, Isabelle Langer.
En fait, la semaine dernière, elle évoquait encore une bulle sanitaire qui permettrait aux joueurs non vaccinés de jouer à Roland-Garros notamment. Cela commençait à indigner certaines personnes qui se disaient pourquoi nous, spectateurs en tribune, on va être obligés d'avoir un pass vaccinal. Et puis, pour regarder des joueurs qui, eux, en seraient dispensés. Donc voilà, je crois qu'elle a amené la réponse.
Bon, les sportifs sont pas au-dessus des lois, c'est ça la philosophie de tout ça, Christian?
Ils ne sont pas au-dessus des lois, ils vont devoir désormais appliquer la loi. Ça veut dire que le pass vaccinal qui va être mis en place, si j'ai bien compris, dans les prochains jours, prochaines heures, car il y a encore quelques membres du personnel politique en France qui souhaitent quelques ajustements. Eh bien, tout ce personnel sportif, désormais, va devoir se soumettre, par conséquent, à ce pass vaccinal. Donc, ils devront être vaccinés. Mais je dois dire que les sportifs français, dans l'ensemble, donnent le bon exemple, car première semaine de janvier, une enquête du service des sports de RTL de Nicolas Georgerot soulignait que 97% des footballeurs professionnels en France étaient déjà vaccinés, que 98% chez les rugbymen étaient vaccinés, même résultat, à peine inférieur, 96% pour le basket. Et les équipes françaises, donc, sont quasiment 100% déclarées. Si ce n'est pas le cas désormais, c'est rupture de contrat. En tout cas, suspension de contrat.
Christian, ces chiffres que vous nous citez sont extrêmement... sont extraordinaires. Sauf que moi, je vois toutes les semaines des équipes où il manque des joueurs parce qu'on nous dit qu'ils sont devenus qu'à contact ou qu'eux-mêmes ont attrapé le Covid.
Ça n'empêche pas de l'avoir, même si vous êtes vacciné à la fois.
Eh bien, voilà la bonne réponse. Isabelle Choquet, en même temps, si Djokovic a dû quitter l'Australie, c'est parce qu'il n'avait pas respecté les règles. Et l'Australie n'est pas épargnée par la pandémie, on est bien d'accord.
Hein. Ah bah oui, la règle pour entrer en Australie, c'est schéma vaccinal complet. Sinon, il faut une dérogation. Djokovic a dit qu'il avait cette dérogation. Il s'en est même un petit peu vanté, un peu trop sans doute. Apparemment, ce n'était pas le cas. Et le gouvernement australien ne l'a pas raté. Parce qu'il faut comprendre que Melbourne, la deuxième ville d'Australie, Melbourne est sortie en octobre de son sixième confinement. Depuis le début de la pandémie, les habitants ont passé plus de 260 jours enfermés chez eux, c'est le record mondial. Et on leur a promis qu'il n'y aurait plus de confinement dès que le taux de vaccination atteindrait 70%. Ils l'ont fait, forcément, maintenant ils sont un peu chatouilleux sur le sujet.
Presque 300 jours, on les comprend. Que pensez-vous de ce tweet de Florian Philippot hier? L'Australie et les codivistes, codivistes n'avaient peur que d'une seule chose, que Djokovic gagne le tournoi. Enfin voilà, les antipasses font un argument de cette campagne quasiment présidentielle. Christian Olivier.
C'est pour ça que c'est un sujet qui met mal à l'aise, parce qu'on oublie... C'est-à-dire qu'à la fois, si vous défendez Djokovic, vous êtes taxé quasiment de complotisme, sans essayer de comprendre les raisons qui l'ont poussé à tenter de participer au tournoi avec les nombreuses erreurs de communication qu'il a formulées. À l'inverse, vous avez aussi le bashing Djokovic qui est absolument insupportable. Et de ce point de vue-là, tout le monde est responsable. C'est-à-dire que la famille Djokovic a quasiment comparé son fils à Jésus-Christ qu'on envoyait sur la croix ou à Spartacus. Et de l'autre côté, vous entendez également un Djokovic qui n'est qu'un tricheur, qui n'est qu'un dopé, qui n'est qu'un bonimenteur, etc., etc. C'est un sujet qui met mal à l'aise. Et dans la présentation complète d'Isabelle Choquet, on a oublié une chose quand même. C'est la récupération, vous l'avez dit, politique en France, mais la récupération politique en Australie
aussi.
Dans quelques mois, il y a des législatives et le gouvernement de droite a bon dos de montrer qu'il sera inflexible.
Ils ont voulu montrer les muscles.
Absolument, tout à fait.
Donc, vu la sortie de notre ministre des Sports, pas de Roland-Garros pour Djokovic s'il n'est pas vacciné et que la situation sanitaire n'évolue pas, Isabelle Langer.
Non, mais ce sera la même chose pour les États-Unis. Pour entrer aux États-Unis, vous êtes obligé d'être vacciné. Et aux États-Unis, c'est là où il y a quasiment le plus de tournois pour Djokovic cette saison. Il y a 3 Masters Mills et puis il y a l'US Open. Donc il sait ce qu'il lui reste à faire. Samedi, son ancien entraîneur Boris Becker, d'ailleurs, était sans concession. Il lui disait arrête d'être têtu et vaccine-toi. Oui. Il faut rappeler qu'en France, il y a un joueur qui n'est pas vacciné, un joueur de tennis, et c'est Pierre Gerber. Il s'interroge aussi sur la suite de sa carrière. Il le confessait la semaine dernière, c'est pas un petit débat intérieur.
Alors, vous nous le rappeliez au début de notre intervention, ça aurait été paradoxal d'avoir dans les tribunes des gens obligatoirement vaccinés, mais pas sur les cours.
C'est ça. D'accord.
Oui, mais attendez, il y a quelque chose qui m'a échappé depuis quelques heures. C'est-à-dire que le virus a muté, où il s'est passé quelque chose de particulier.
Qu'est-ce
pour que
vous voulez dire?
Il y a quelques jours, Oksana Maracineanu nous
disait... Non, mais elle attendait que le pass vaccinal soit...
On savait très bien que le pass vaccinal allait être adopté, allait être voté. Pourquoi avoir dit, il y a quelques jours, que les étrangers non vaccinés pourraient être accueillis dans une bulle sanitaire? Pourquoi, il y a encore quelques heures, Gilles Moreton, organisateur de Roland-Garros, dit qu'un dispositif spécial pour les étrangers non vaccinés sera mis en place?
Non, il disait qu'il était en train de travailler avec les autorités sur le dossier.
C'est
mais effectivement, ce que je disais au début de mon intervention tout à l'heure, c'est que ça criait, ça commençait à crier très fort du côté des spectateurs, et je pense qu'elle a voulu mettre fin au débat avec les gens.
On se pose quand même des questions, c'est est-ce que c'est tabou, Isabelle Choquet, la vaccination chez nos sportifs?
Christian en disait un mot tout à l'heure, les réfractaires ne sont pas très nombreux, ils ne sont plus très nombreux pour être précise. En tennis par exemple, au début du mois de décembre, il y avait 20 joueurs du top 100 qui n'étaient pas vaccinés. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Après, c'est aussi aux fédérations internationales de prendre leurs responsabilités. Prenez le handball, ils ont rendu la vaccination obligatoire. Tous les joueurs présents à l'Euro en ce moment ont un schéma complet. Et en France, avec l'arrivée du pass, c'est ce qu'on disait. Oui, tout le monde s'y est mis au presque. Mais Didier Deschamps l'a révélé il y a quelques jours. Il a révélé que certains bleus n'étaient pas à jour et il n'a pas l'intention de les forcer. Il dit que c'est leur liberté individuelle.
Bon, obliger les joueurs ou les joueuses de tennis à se faire vacciner, et d'ailleurs, très au-delà du tennis, à l'ensemble du sport, est-ce que c'est devenu, j'allais dire, quelque chose de logique et d'incontournable, Isabelle Langer?
Vous savez, ils ont tellement souffert de ne pas pouvoir jouer pendant plusieurs mois qu'ils savent aujourd'hui que pour pouvoir continuer leur carrière, leur métier, en quelque sorte, ils n'ont pas vraiment le choix. Donc, ils ont, même si c'est au-delà de leur... de leur conviction, ils y vont parce que sinon ils ne peuvent plus travailler.
Il faut les obliger, Christian Olivier.
C'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Oui, mais je me sens partagé, c'est pour ça que c'est intéressant.
Je suis partagé, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas vacciné que vous êtes un porte-voix des anti-vax. Mm-hmm. Vous pouvez avoir vos propres convictions, seulement ça impacte effectivement le métier que vous pratiquez. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Mais le problème, c'est la réglementation qui est à double ou triple vitesse. Regardez ce qui se passe. En Angleterre, vous pouvez y aller. Simplement, il y a une mise en quarantaine.
Oui.
Aux États-Unis comme en Australie, vous ne pouvez pas y aller. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'entrée sur un territoire, du point de vue de la frontière, et la réglementation d'un événement sportif. Donc, il n'y a pas d'harmonie. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça impacte le métier, ça impacte l'avenir, ça impacte le palmarès, ça impacte les sponsors. Ça impacte beaucoup de choses.
Ce matin, l'Australie est soulagée. En Serbie, Djokovic est un héros et même un martyr, nous disait notre envoyé spécial Vincent Serrano. Est-ce que son image en prend un sacré coup quand même, Isabelle Langer?
Le sondage Odoxa que nous avons publié hier pour Kenéo et RTL révélait que plus de la moitié des personnes interrogées estimaient que cette affaire allait dégrader son image.
Alors, il y a une question que je me pose depuis le début, Isabelle Choquet, c'est pourquoi cette intransigeance et ce jusqu'au boutisme chez Djoko?
Alors, pourquoi? Je ne suis pas dans la tête de Djokovic, mais bon...
Mais il s'en est expliqué d'une façon ou d'une autre.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais caché qu'il était hostile au vaccin. Hein. Dès le printemps 2020, il disait, moi, je ne voudrais pas être forcé par quelqu'un de faire un vaccin pour pouvoir voyager. Au printemps 2020, donc vraiment au tout début de la pandémie. Djokovic, c'est un adepte des médecines alternatives. Ça fait longtemps qu'il pratique le régime sans gluten, pourquoi pas. Hein. Il a un faible pour les pseudo-sciences. Par exemple, il défend une théorie selon laquelle la pensée peut avoir un impact sur la structure de l'eau. Il est convaincu qu'on peut dépolluer l'eau par la seule puissance de la prière. On a aussi beaucoup parlé il y a 2 ans de son pèlerinage dans un petit village serbe où il y avait une colline qui était censée être une pyramide construite par une civilisation supérieure. Il y est allé, il a affirmé qu'il s'était senti régénéré. Bon, vous voyez, c'est ce genre de...
L'ésotérisme.
Il est à fond dans l'ésotérisme.
Il a le droit d'être un peu dingo, mais c'est un grand tennisman, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quel est son avenir? Il a 34 ans, Isabelle Langer. Et ça sera ma dernière question.
Ça va dépendre de ses positions. S'il campe sur ses positions de ne pas se faire vacciner, ça va vraiment compromettre sa carrière. Encore une fois, il a gagné 9 fois Melbourne. Là, il s'est privé vraiment d'une occasion de le remporter une 10e fois et surtout de porter son palmarès à 21 en Grand Chelem, de devancer Nadal et Federer. Finalement, il a laissé le champ libre à Nadal pour le faire.
C'est une étape très importante dans sa carrière, on l'a compris. Merci à vous trois, vous avez été passionnants. France 2022 est à retrouver en podcast sur l'application RTL. Et dans un instant, c'est Laurent Gérard que nous allons retrouver avec toute son équipe et Mademoiselle Jade.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Certes oui, il est 8h47, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Olivier Véran a été testé positif au Covid la semaine dernière, vous le savez, et donc placé à l'isolement chez lui. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour Madame.
Malgré vos 3 doses de vaccin, vous êtes tombé malade. Est-ce que cela pourrait remettre en cause votre politique sanitaire en misant moins sur le vaccin?
Mais pas du tout, au contraire. Je suis tombé malade parce que 3 doses, ça ne suffit pas. Je vais donc donc proposé à Emmanuel Macron d'instaurer la dose mensuelle à vie, oui, avec déchéance de nationalité pour ceux qui refusent de s'y soumettre. Voilà, c'est tout simple.
Un peu dictatorial, tout ça. Bon,
sur cette question, ma position est la même que celle du président. Ceux qui ne sont pas contents, je les emmerde.
Ah ben, oh, je voilà. vois ça. Et votre expérience de l'isolement, elle se passe bien ?
Très bien, je me soigne. Je reste au service des Français en travaillant depuis ma chambre et je verbalise.
Vous verbalisez, c'est-à-dire ?
Ben, par exemple, hier soir, j'ai croisé ma femme dans le couloir avec son masque, mais oui. il ne couvrait pas la totalité du visage, il ne couvrait pas le nez.
Oui.
Je l'ai donc verbalisé de 135 euros.
135 euros ?
Oui.
Ben, dites donc.
Je verbalise mes enfants également.
Ah oui ?
Ah, très bien.
Ce matin, j'ai vu ma petite dernière dans la salle de bain. Elle était en train de se curer les oreilles avec un coton-tige au mépris du protocole, qui exige que le coton-tige soit inséré dans la narine, pas dans les oreilles. Et hop, 135 euros. Hop.
Mais la pauvre petite.
Sur ce, je vous laisse. Oh, bon, ah. dites donc. Je viens de voir mon ado entrer dans la cuisine pour se servir un bol de choc à pic. Oui. Je dois aller vérifier son passe vaccinal. Bonne journée.
Et à votre famille.
Mais oui.
Après avoir expérimenté ces fameux hologrammes et ces meetings en réalité augmentée, le candidat Jean-Luc Mélenchon a encore innové avec un meeting immersif et olfactif hier à Nantes. Racontez-nous ça, monsieur Mélenchon.
Ça t'embouche à quoi, hein, mon meeting du troisième type? J'en suis à trois campagnes présidentielles. Tu croyais quand même pas que j'allais encore me mettre devant un pupitre et postillonner sur mes feuilles comme un sous-préfet dans une salle des fêtes?
Alors, rappelons que vous étiez au centre d'un cube de 50 mètres de côté sur 6 mètres de haut, tapissé d'écrans géants diffusant des images à 360 degrés,
oui,
avec 96 mètres carrés de panneaux LED, un son spatialisé et même une diffusion d'odeur.
Et alors, chez toi, ça sent le pognon luxembourgeois, alors que dans mes meetings, ça sent le bain moussant à la vanille. Ça te défrise, hein? T'as qu'à te boucher le nez si ça te défrise.
D'accord. Et pour vous projeter dans un espace 3D, vous avez utilisé les services des scénographes de Star Wars, carrément. Mmh. Vous avez vraiment mis le paquet, on peut dire.
Vous avez mis le paquet. Alors, c'est toi qui payes? J'ai bien le droit de me faire un peu plaisir. Si tu veux en profiter, t'as qu'à réserver sur fnac.com. Je passe à Strasbourg le 19 et le 24 à Bordeaux.
Bon, bah, je vais le noter. Merci, voilà. Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger pendant votre émission de désinformation.
Ah, François Ruffin nous a rejoint. Mm-hmm. Vous avez aimé l'incroyable meeting immersif et olfactif de votre chef, François Ruffin?
Oh, ben oui, c'est drôlement bien, les adieux musicaux du patron.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Ruffin? C'était pas mes adieux, c'était mon grand retour.
Ah, d'accord, patron. C'est dommage que Céline Dion et Mylène Farmer, elles aient pas pu faire la première partie du spectacle.
Je crois que c'était pas du tout un spectacle, François Ruffin. C'est plutôt un meeting politique. Les images et les odeurs, c'était pour illustrer votre projet politique.
Ah, d'accord, madame. C'est pour ça que ça sentait le sapin, alors.
Mais qu'il est con!
Invité vendredi d'Alba Ventura sur RTL, Brigitte Macron est revenue sur les rumeurs dont elle a été victime. Certains ont diffusé, je vous le rappelle, de fausses informations selon lesquelles la première dame serait un homme, en la confondant sciemment dans son arbre généalogique avec son frère. Partons à l'Élysée pour voir si cette affaire est maintenant terminée.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin! Mais qui êtes-vous? Je suis ton père! Mais c'est toi, Emmanuel? Bah quoi? Vu que toi, t'es ton frère, si ça se trouve, moi, je suis ton père! Oh, c'est malin! Oh, ça va, c'est une blague! Oh, tu ne vaux pas mieux que ces malotrus qui ont changé mon arbre! Mais non, t'inquiète, Bribri, il est toujours là ton arbre dans le jardin de l'Elysée. D'ailleurs, t'as vu depuis que McFly et Carlito ils ont fait pipi dessus, en levant la patte, il est plus vigoureux que jamais, l'arbre.
Mais je ne te parle pas de cet arbre-là, triplandouille. Je te parle de mon arbre généalogique.
Ouais, vu qu'on se ressemble pas, j'ai beaucoup plus d'humour que toi. Il y a un truc qu'ils pourront jamais dire, c'est que t'es ma mère.
C'est pas un argument à utiliser si tu veux mon avis. Bon, allez, oublions cette affreuse histoire et remettons-nous au travail pour ta réélection.
Un, je vais tous les emmerder, et deux, je vais leur dire d'aller bien se faire cuire le cul.
Et c'est reparti, j'en appelle à Saint-Gilles de la Tourette, aidez-moi à sortir Emmanuel de là.
Nous sommes le lundi 17 janvier, oui, et nous célébrons le Blue Monday, Yves.
Ah bon?
Vous le savez?
Pas du tout.
Considéré comme le jour le plus déprimant de l'année.
Ah oui, mais moi c'est très bien.
Eh oui.
J'écoute RTL, tout va
oui,
bien.
Cyril, c'est comme ça, c'est le Blue Monday. Comme si chaque année, pas. Pour en parler, nous recevons Michel Houellebecq. Bonjour Michel.
Chou.
Oui, Chou. C'est important pour vous le Blue Monday?
Bien sûr, pour nous les dépressifs, le Blue Monday, c'est un peu comme l'Aïd el-Kébir chez les musulmans ou Yom Kippour chez les juifs, c'est la fête la plus importante de l'année.
Mm-hmm. Alors comment allez-vous la fêter ?
J'ai prévu un vrai repas de fête avec en entrée du foie gras, vous savez, le foie gras vegan. Ça, c'est bien déprimant pour commencer.
D'accord. Et en plat ?
Une conserve de ravioli Leader Price que je vais manger froide à même la boîte en regardant la théma d'Arte sur le trafic d'organes au Kazakhstan. Avec ça, je devrais bien déprimé.
Je n'ose pas vous demander le dessert.
Justement, pour le dessert, j'aurais demandé à Cyril Lignac s'il n'y a pas une recette de Charlotte au Prozac et son coulis de Xanax. J'en avais mangé au réveillon chez les Souchons et je m'étais régalé, vraiment.
Il peut vous la faire, hein, je suis sûr.
Il sait tout faire.
Oui, il sait tout faire. Les supermarchés Leclerc ont provoqué un tollé en annonçant le plafonnement de la baguette de pain à 29 centimes dans leur magasin.
Fumier !
Bonjour Gérard Depardieu, vous êtes un ardent défenseur de la gastronomie nationale. Vous aussi, ça vous indigne ?
Mais bien sûr que ça m'indigne. Michel-Édouard Leclerc, d'habitude, il a de bonnes idées, mais celle-là, c'est normal qu'elle n'ait pas hyper marché. Hein ? Elle est bonne, hein ?
Oui, elle est bonne. Je vois que vous le prenez à la rigolade.
C'est pour éviter d'en pleurer. Plus le prix est bas, plus la qualité est basse. C'est mathématique. C'est comme Netflix. Quand tu payes 10 balles par mois pour des films illimités, forcément, c'est pas des chefs-d'œuvre que tu vois. Hein. C'est des navets de Mouloud Achour qui ont fait 25 entrées en salle.
Oh là là là. Le parallèle est audacieux.
Mais réfléchis, ça marche avec tout. Tiens, autre exemple. Les filles de joie. Quand tu te tapes une prostituée à 10 balles,
oula,
c'est pas au 7e ciel que tu voyages. C'est au bois de Vincennes dans la camionnette de la grosse Rita.
Non. Bon, écoutez, Gérard, restons sur le domaine alimentaire. On est à une heure de grande écoute, voilà. Je vous le rappelle.
Oui, admettons, c'est pas les exemples qui manquent. Tiens, un dernier. Hier soir, j'ai mangé une tarte au citron de la pâtisserie à M. Lignac.
Voilà. Oui, ah, vous avez de la chance.
Elle avait tellement le goût de citron qu'en fermant les yeux, j'avais l'impression d'être en Sicile. Je suis un petit maraîcher. C'est tout juste si on tentait pas. Les notes de mandoline me chatouillaient les oreilles.
C'est beau ce que vous dites, Gérard.
Ah oui. Oh, oui, c'est beau. Alors qu'une tarte au citron à 50 centimes, c'est tellement insipide et trop sucré que quand tu fermes les yeux, c'est pas de la mandoline que t'entends. C'est un poème de Christiane Taubira. Oh, nom de Dieu!
Bah écoutez, je crois qu'on commence bien la semaine. Il est 8h55. Ce rire est celui de Cyril Lignac qu'on va retrouver dans quelques instants.
On le connaît.
Oui, et vous savez ce qu'il va nous proposer ce matin.
C'est quoi ?
Bah, un vrai aligot.
Ah, au citron.
Ouais, c'est contre la dépression de ce jour-là.
C'est bon l'aligot.
On lutte contre le Blue Monday avec l'aligot. Ça me semble une bonne chose. D'ici là, en tout cas, on vous retrouve sur le site rtl.fr et puis à demain matin.
À demain.
Merci à toute l'équipe et à tout de suite, Cyril.
À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril Lignac, nous vous retrouvons pour une nouvelle semaine d'astuces. Et on commence avec Florian, il habite à Paris et il vous demande comment on fait un véritable aligot.
Bah, ça tombait, j'en ai fait hier soir.
Ah bah voilà.
Alors des pommes de terre vieilles, c'est-à-dire on prend de la pomme de terre un peu comme de la binge.
Oui.
On la laisse un petit peu, moi je fais comme faisait ma mère, on la laisse dans un panier un peu vieillir, même quand elle a un peu des germes.
Quelques
là.
Germes, c'est pas un problème.
Et au contraire.
Mais combien de
donc
temps
après, on l'épluche. On peut faire avec des pommes de terre qu'on achète, mais c'est vrai que nous à la maison, on avait toujours des pommes de terre qu'on laissait vieillir. Comme ça, on les jetait pas. Donc en fait, on épluche la pomme de terre, on enlève le germe. On fait une purée de pommes de terre, donc on les cuit dans de l'eau. Donc je prends 500 grammes de pommes de terre, je mets du gros sel, de l'eau, je cuis. Ensuite, je passe au presse-purée avec 50 grammes de beurre et 25 grammes de crème fraîche épaisse.
Ah.
Et là, ça nous fait pas vraiment une purée, mais ça nous fait une pâte de pommes de terre assez épaisse. Ensuite, je coupe des petits morceaux de thomme fraîche. Alors, pour réussir un bon aligot, il faut avoir de la thomme de moins de 3 jours. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit très fraîche.
D'accord.
Parce que c'est ce qui va faire filer la pomme de terre.
Mmh.
Ensuite, on la met à l'intérieur de la purée. On fait à feu très doux.
Très doux.
On mélange en donnant le volume, ce qui va permettre au fromage de fondre et de faire cette particularité de l'aligot qui file. Alors, on peut y mettre de l'ail. Alors, dans l'Aveyron, c'est un peu avec de l'ail, sans ail.
Vous, je suis sûr que vous mettez de l'ail, vous.
Moi, j'en mets pas.
Ah bon?
Mais j'en mets pas parce qu'à la maison, on mettait pas d'ail. Mais surtout,
mais
on le met cru.
Par tradition familiale.
Ouais, parce que j'ai toujours mangé comme ça.
Ah oui, d'accord, très bien.
Mais parce que l'ail, il est pas cuit. Moi, j'aime l'ail un peu cuit quand même. Hein.
Ah oui, oui.
Là, l'ail, on le coupe, on le met comme ça. Hein.
Ah oui, c'est pas la
donc,
même chose.
Donc, quand ça croque, ça croque.
Oui, ça tape.
C'est un peu la fève, quoi.
Vous êtes fier de vous ?
Ouais.
Très bien.
Merci, je suis reparti dans l'Aveyron. Merci Florian.
Merci cher Cyril, on vous retrouve sur RTL.fr et sur notre application mobile avec l'ensemble de vos recettes. Bonne journée à vous. Ah oui, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Olivier Bois.
La promesse à nouveau des jours heureux. Le patron de Pfizer voit le retour à la vie normale en France au printemps. La déferlante Omicron, en plus de la vaccination, pourrait nous offrir cette forme d'immunité collective. Omicron qui faiblit d'ailleurs en France, 6% de cas en moins sur la semaine écoulée et un nombre de patients qui baisse légèrement dans les services de réanimation. Le pass vaccinal a été adopté dans sa mouture définitive, obligatoire donc pour les plus de 16 ans. Les patrons de bars-restaurants pourront contrôler les identités. Il faut attendre maintenant l'examen au Conseil constitutionnel avant l'application effective espérée d'ici la fin de semaine. Pfizer, justement, va fabriquer en partie son nouveau médicament anti-Covid à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est l'un des 21 projets industriels annoncés par Emmanuel Macron en provenance de l'étranger pour un total de 4 milliards d'euros d'investissement. Le président espère la création de 26 000 emplois directs ou indirects. Éric Zemmour saura cet après-midi s'il est condamné ou pas dans l'affaire des propos qu'il avait tenus sur CNews. Quand il avait qualifié les mineurs isolés de violeurs et d'assassins, le parquet avait requis 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine raciale. Des millions d'Américains de l'Est du pays se mettent à l'abri alors qu'une tempête hivernale majeure est en train de frapper du Tennessee à l'État de New York. 145 000 personnes sont d'ores et déjà privées de courant. Novak Djokovic lui a quitté l'Australie, mais ses soucis ne sont pas terminés. La ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, indique que tous les sportifs professionnels seront soumis au pass vaccinal pour rentrer dans une enceinte sportive. On comprend donc que la règle pourrait s'appliquer à Roland-Garros. Côté sportif, à Melbourne, Gaël Monfils s'est qualifié, tout comme Raphaël Nadal et Naomi Osaka, tenant du titre chez les femmes. En clôture de la 21e journée de Ligue 1, Lille et Marseille ont fait match nul un partout hier soir au Vélodrome. Et les handballeurs français affrontent ce soir la Serbie à 20h30, avec une très forte chance de se qualifier pour le tour principal.
Merci beaucoup Olivier Bois. Il est 9h02.